Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous, ça y est, c'est parti. Bah oui, c'est lundi, reprenez en douceur ou alors sur les chapeaux de roue. Mais quoi qu'il arrive, on est là pour vous accompagner. On est ensemble jusqu'à 9h. Soyez les bienvenus dans Apolline Matin sur RMC. L'émotion immense et la colère et les questions. Qui est responsable? Qui aura le courage de prendre ses responsabilités surtout? Personne ne partira en vacances tant que les 70 000 plaintes impliquant des mineurs ne sont pas intégralement revues. Voilà le coup de poing sur la table du ministre de la Justice après la mort de la petite Liana, Gérald Darmanin, qui réunit ce matin les procureurs généraux. Et la question d'ailleurs de sa propre responsabilité à Gérald Darmanin, elle se pose aussi. Une partie de la gauche demande sa démission. 9 procédures au total visent Jérôme Barella, le principal suspect de la mort de Liana. Les magistrats, eux, disent ne pas vouloir être les boucs émissaires de ce fiasco. Le représentant des procureurs de France a choisi RMC. Il sera en direct dans ce studio à 7h40. Et vous, ça vous fait réagir? Est-ce que les responsables doivent être punis? Est-ce que vous imaginez qu'il y aura vraiment des sanctions? Et puis, vous l'avez entendu il y a 10 minutes sur RMC, l'actrice, réalisatrice Andrea Bescon, elle-même victime, elle lance un appel à manifester ce soir devant les palais de justice partout tout en France. Est-ce que vous irez? Est-ce que vous avez prévu d'y aller? Vous venez me le dire au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. La politique, 7h50, Charles Consigny, voix de droite, reviendra sur le premier meeting de Jean-Luc Mélenchon hier à Saint-Denis. Pour lui, cette gauche-là, c'est une gauche contre-productive. Et à 8h30 dans le face-à-face, mon invité, ce sera le bras droit de Jean-Luc Mélenchon, patron d'LFI, Manuel Bompard. Il est 6h59. Dans un instant, le journal de 7h, mais d'abord la météo. Géraldine, bonjour Géraldine. C'est le retour de la pluie.
Un temps qui va être bien perturbé aujourd'hui avec la pluie qui arrive par la Bretagne ce matin, qui va toucher les pays de la Loire jusqu'aux côtes de la Manche dans la journée. On va aussi avoir des orages des Pyrénées jusqu'au Massif Central et au Grand Est, des orages parfois assez forts, notamment autour du Massif Central avec de la grêle, avec de grosses rafales de vent. Ailleurs, ce sera souvent nuageux, sauf des Alpes à la Méditerranée où là, ce sera ensoleillé. Température très contrastée entre l'Est et l'Ouest. 16 degrés à Brest cet après-midi, mais 31 à Grenoble, 30 à Lyon, 28 à Marseille. Il fera 22 à Paris, à Bordeaux, 20 à Lille. Et en revanche, il fera très chaud le week-end prochain.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Excellent réveil à tous, merci d'avoir choisi RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les sirènes d'alerte résonnent à nouveau ce matin au Moyen-Orient qui menacent de s'embraser après la reprise des bombardements entre Israël et l'Iran. Colère hier à Florence dans le Gers où plus de 6000 personnes se sont rassemblées. Marche blanche en hommage à Liana. L'affaire révèle les failles de la justice. L'ensemble des procureurs généraux sont convoqués ce matin par Gérald Darmanin. Et que vont devenir les 25 millions d'abonnés à SFR après le rachat de l'opérateur par ses concurrents?
Regain de tension ce matin au Moyen-Orient.
Avec des échanges de tirs depuis la nuit dernière, Téhéran et Tel Aviv ont rompu un très fragile cessez-le-feu en vigueur depuis deux mois maintenant, avec des explosions, Romain Houg, entendues très tôt ce matin en Israël.
Oui, au moins 8 fortes explosions ont été entendues au-dessus de Jérusalem alors que les sirènes d'alerte et les systèmes de défense antiaérienne israéliens ont été activés quelques instants plus tôt. Pour l'instant, aucune victime n'est à déplorer. C'est la deuxième salve de missiles tirée depuis l'Iran vers Israël en quelques heures, alors même que les Iraniens n'avaient pas visé le pays depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis il y a tout juste deux mois. L'Iran dit riposter à des bombardements israéliens sur le Liban, mais ce matin, la trêve semble encore un peu plus fragilisée. Israël ayant également mené des frappes dans l'ouest et le centre de l'Iran, dont Téhéran, la capitale, contre l'avis même de Donald Trump. Le président américain s'est entretenu hier soir avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour l'exhorter en vain donc à ne pas répliquer contre l'Iran.
Et dans ce contexte, notez que c'est aujourd'hui qu'ouvre le guichet d'aide au carburant à destination des artisans du BTP impactés par la guerre au Moyen-Orient. 20 centimes par litre de gazole non routier facturé en mai dans un plafond limité à 4000 euros par entreprise de moins de 50 salariés. Plus jamais ça. Voilà ce qui était inscrit sur la banderole portée hier à Florence par les parents de Liana, jeune collégienne de 11 ans dont le corps a été retrouvé jeudi dernier dans un silo agricole. sur fond de polémique autour des procédures engagées contre le principal suspect. 6000 personnes ont marché hier, rassemblées dans cette commune du Gers, marche blanche en hommage à la jeune adolescente, entre colère et émotion. Reportage au cœur du cortège, Victor Girard.
Sa pancarte serrée contre elle dans le cortège.
Paix et justice, je suis Liana.
Alicia, 12 ans, tenait à participer à cet hommage.
C'était une copine à moi au collège, discutait dans la cour.
Pourquoi c'était important pour toi de venir ?
Pour pas qu'on l'oublie et qu'on lui dise au revoir.
Moi, je suis venu, un soutien aux parents, Christophe, hein, je suis le papa d'Alicia. Même à leur place, il y a même pas de mots en fait pour décrire ce aurait pu arriver de nos enfants.
Le cortège, vêtu de blanc, avance en silence. Il passe devant le collège où fleurs et bougies s'accumulent. Puis la tante de Liana prend la parole à l'arrivée.
Et au nom de toute notre famille, merci infiniment pour elle.
L'hommage prend fin et au milieu de la foule d'anonymes, Jessica peine à contenir ses larmes.
Le fait de voir que autant de personnes sont réunies pour une petite fille, c'est compliqué de contenir sa tristesse, sa peine, sa haine.
Colère largement partagée, Isabelle et Didier espèrent que cette marche servira d'électrochoc.
Et que tout le monde va se remuer et que ça se reproduira plus.
On donne les moyens d'avoir des gens qui sont là pour protéger les enfants à l'école et tout ça.
Des revendications que beaucoup iront porter dès ce soir lors d'un rassemblement à 19h devant le tribunal d'Auch.
Et des rassemblements comme celui-là, il y en aura une centaine dans d'autres villes en France pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice. 9 procédures, je vous le disais, pour viol ou agression sexuelle sur mineur engagée contre le principal suspect de cette affaire, sans que ce dernier ne soit inquiété. Des failles pointées du doigt par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. Il dénonce des consignes qui n'ont pas été suivies. Le garde des Sceaux va demander des comptes aux procureurs généraux convoqués à 8h30 ce matin. Leur demander de revoir l'ensemble des 70 000 procédures en cours pour violence sur enfants, et l'un de ses procureurs justement a accepté de répondre aux questions ce matin de RMC. Il témoigne de manière anonyme au micro de Constance Bostoen. Sa voix a été modifiée.
Ce procureur ne cache pas son inquiétude après les propos tenus par Emmanuel Macron et Gérald Darmanin.
J'ai suffisamment d'expérience pour savoir que louper ça arrive. Mais je sais parfaitement que ça peut arriver à n'importe quel moment. Qu'un garde des Sceaux s'excuse à l'avance pour nos dysfonctionnements à nous, moi ça me choque. On sait qu'on va être les boucs émissaires de toute façon et que personne ne nous protégera. C'est vraiment une crucification publique. C'est quelque chose qui nous angoisse.
Il regrette aussi une surcharge de travail due au nombre trop important de circulaires émises par le gouvernement. L'Union syndicale des magistrats en décompte 42 depuis le début de l'année 2025.
J'ai 30 ans d'expérience, fait 15 ans que je suis procureur de la République, je n'ai jamais connu une situation pareille. Absolument tout est une priorité et objectivement rien ne fonctionne en réalité. Et puis le problème, c'est que là, on est les otages d'un enjeu politique.
Dans l'affaire Liana, les premières conclusions d'une mission d'inspection devraient être rendues sous 15 jours, mais il assure que pour certains de ses collègues, il est déjà trop tard.
Beaucoup veulent quitter le parquet. Ils le feront. Hein. Là, ça a cassé quelque chose.
Et ne manquez pas, à 7h40, donc dans l'heure qui vient sur RMC, Frédéric Chevalier, procureur de la République de Chartres, président de la Conférence nationale des procureurs de la République. Il a choisi RMC, il répondra à mes questions avant de se rendre au ministère de la Justice. Il sera donc là à 7h40. Il est 7h05 sur RMC.
À retenir également ce matin le bilan de ce crash d'hélicoptère de la gendarmerie dans le Loiret qui a fait un mort et deux blessés en urgence absolue. Tous ce sont des militaires. 20 milliards d'euros, c'est le montant du rachat de SFR par ses concurrents Orange, Free et Bouygues Télécom annoncé hier. Fruit de longues négociations, cet accord cadre doit encore passer entre les mains de l'autorité de la concurrence. Mais on s'interroge ce matin, Victor Jourdain, sur le sort des 25 millions de clients abonnés de la marque au carré rouge.
Eh bien, quand l'opération sera finalisée, pas avant un an, les abonnés transférés garderont leur numéro de téléphone et pourront rompre leur contrat si la nouvelle offre ne leur convient pas. Mais avec un retour à 3 opérateurs plutôt que 4 et donc moins de concurrence, les Français doivent s'attendre à voir leur facture de téléphone augmenter, prévient le spécialiste des télécoms, Vincent Roger Machard.
Aujourd'hui, on est en Europe, un des pays où on paye nos abonnements télécom le moins cher, avec une qualité de service qui est reconnue. Probablement, oui, on va s'aligner un peu plus sur la moyenne européenne dans les années qui viennent. On peut sans doute s'attendre à 10% en plus.
Autre inquiétude, les salariés de SFR ont sur le papier la garantie de garder leur emploi pendant un an et demi, mais aucun engagement pour la suite, et les syndicats craignent des suppressions de postes par milliers.
Une information trafic dans les transports en commun de la région Île-de-France sur les lignes A et C, trafic interrompu. Ligne A et C du RER ce matin, une partie des deux lignes est interrompue après un accident de personne. On est à une semaine maintenant du premier match des Bleus à la Coupe du Monde face au Sénégal. Dernière répétition ce soir, ce sera à Lille et ce sera à 21h10 à suivre sur RMC face à l'Irlande du Nord. Notez que la Norvège dans le groupe de l'équipe de France a fait match nul hein, partout face au Maroc hier soir. Et puis un pas dans l'histoire pour toujours. Les pionnières, les premières joueuses du club de handball de Metz, vainqueur de la Ligue des champions féminines hier soir à Budapest face aux Hongroises de Győr 31-29. Kevin Morand.
Oui, et les Messines ont célébré pendant près d'une heure avec le virage jaune garni de leurs 700 supporters. Une joie à la hauteur de leur exploit, la demi-centre, Léna Granvaux.
C'est la première Ligue des Champions pour un club français, c'est complètement dingue. C'est fait aujourd'hui et on peut être fiers.
Dès le coup de sifflet final, les larmes ont coulé en abondance chez la capitaine Messine, Chloé Valentini.
Je sais même pas pourquoi je chiale, parce que je réalise pas.
C'est incroyable, le match, tout ce week-end, cette année.
Metz avait échoué 4 fois en demi-finale ces dernières années, alors battre Győr, le double tenant du titre, en finale et en dominant largement la seconde période, la pivot Sarah Bouktit n'osait pas en rêver.
Je me suis fait des milliards de scénarios, j'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais excitée et stressée. Il y a pas un moment où je me suis dit on mènera plus 6 contre le géant Győr. Je suis pas surprise au final, c'est juste le fruit de tout le travail qu'on a accompli.
L'histoire est belle aussi pour Graza Hadi, la demi-centre revenue dans le club de ses débuts pour 3 mois après avoir déjà tout gagné avec l'équipe de France.
C'est la médaille qui me manquait, de la gagner en fait avec mon club de cœur, c'est incroyable.
Le club lorrain avait déjà tout sport confondu, l'un des palmarès les plus fournis de l'Hexagone, désormais sublimé par une Coupe d'Europe.
Et un mot de Roland Garros avec le premier grand chelem pour Alexander Zverev, vainqueur en 5-7 de l'Italien Flavio Cobolli après plus de 4 heures de jeu.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h09 et vous êtes bien sur RMC avec cette question aussi à la une. Il y a un peu plus de 20 milliards d'euros qui a été donc signé après des mois de négociations. Orange, Bouygues et Free ont trouvé un accord pour racheter l'opérateur SFR. Bonjour Stéphane Dubreuil.
Bonjour.
Vous êtes économiste, spécialiste des télécoms. Quelles conséquences pour les clients SFR, 25 millions de clients en France, pour les clients SFR mais aussi pour les autres d'ailleurs, parce qu'à terme les prix augmenteront tous. C'est votre parti pris, vous nous expliquez comment dans un instant et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez la moindre question. Vous nous appelez au 32 16 7h09.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Après le rachat de SFR, que vont devenir les 25 millions de clients de l'opérateur téléphonique et comment ça va se passer? Bonjour Stéphane Dubreuil, merci d'entrer dans ce studio. Vous êtes économiste, vous êtes spécialiste des télécoms. Hier donc, Orange, Bouygues Télécom et Free, les trois ensemble, se sont mis d'accord pour racheter SFR qui était en vente depuis des mois, un accord à plus de 20 milliards d'euros. C'est jamais arrivé en France qu'un opérateur soit ainsi démantelé et coupé en trois.
Alors c'est jamais arrivé en France et quasiment dans le monde, puisque dans le secteur des télécoms, à ma connaissance, on n'a jamais explosé un opérateur en trois parties, ce qui est extrêmement complexe d'un point de vue à la fois des clients, mais également de l'infrastructure en fait du réseau.
Très très complexe, on va parler des clients, on va parler des forfaits, on va parler de l'emploi. Un mot d'abord sur les infrastructures, parce que en effet c'est des câbles, c'est des réseaux, c'est des antennes. Comment ils vont s'organiser, comment ils vont se découper le gâteau?
Alors a priori ils ont défini des plaques, donc par exemple les villes denses, les zones denses et les zones non denses. Et en fonction des opérateurs, de leur intérêt, chacun a dit, moi je veux récupérer cette partie-là par rapport à celle-ci. Donc en fait, on éclate le réseau en fonction des zones géographiques et en fonction aussi de la répartition de l'opérateur qui achète et de son intérêt.
Si on est aujourd'hui là, Stéphane Dubreuil, ceux qui nous écoutent, ils sont chez SFR. Ce matin, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'à la place de SFR marqué dans le coin en haut du téléphone, comment ça se passe concrètement? Est-ce que ça change la moindre chose quand on allume le téléphone ce matin?
Non, il faut rassurer les gens. Il ne va rien se passer d'ici 12 à 18 mois. Pourquoi? Parce que ce deal-là rentre dans une négociation avec les autorités de concurrence. Aujourd'hui, on ne sait pas si ça va être géré à Paris ou si ça va être géré à Bruxelles. En fonction des opérateurs, ça sera différent. Aujourd'hui, il y a une période, on va dire, d'analyse, et a priori, il ne se passera rien jusqu'à fin 2027, début 2028. Donc, il faut rassurer vos auditeurs, a priori, ça ne bougera pas trop. La question se posera après, par la suite, à la fois pour les clients, à la fois pour l'emploi.
Donc ça, c'est sûr, concrètement, le téléphone, il continue à recevoir...
Il n'y a pas de changement de logo.
Il n'y a aucun changement, il n'y a même pas de changement de logo. Est-ce qu'il y a un changement de prix?
Et le prix, logiquement, ne bougera pas, puisqu'on est en pleine négociation. Les opérateurs ont aucun intérêt de rentrer dans une guerre des prix. Donc j'ai plutôt envie de dire qu'on va rentrer dans une période de gel. Il va strictement rien se passer. Néanmoins, il faut prendre en compte les inquiétudes des clients, et c'est normal. Beaucoup de clients vont appeler leur opérateur en disant « qu'est-ce qui va se passer demain pour moi ? Est-ce que mon os, je vais la garder
ou
pas ?»
Ceux qui n'écoutent pas RMC, vous voulez dire. Et puis, sinon, les autres auront eu des réponses ce matin. Stéphane Dubreuil, vous nous dites que ça ne change rien pendant cette période-là, parce que ça va être le gel. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'à l'issue de cette période de négociation, c'est-à-dire, comme vous nous le dites, d'ici en gros un an, peut-être un an et demi, est-ce qu'à ce moment-là, les forfaits vont grimper ?
Alors, si on fait un comparable par rapport à ce qui s'est fait avant sur l'Europe, on a remarqué effectivement une montée des prix rapide ou lente. Rapide, je vais donner cet exemple, c'est celui qui fait le plus peur. C'est celui de l'Autriche dans les années 2014-2015. Les prix ont flambé de 18,7% l'année du rachat. Fort de constater cela, la Commission européenne a mis dans leur rachat en Allemagne, la consolidation, des garanties pour éviter ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on peut, le gendarme de la concurrence a la possibilité de mettre des garde-fous pour éviter en fait une flambée. Donc a priori, pour moi, il n'y aura pas de flambée sur le moyen terme, la première, deuxième année. Par contre, à terme, il est évident qu'il y aura une montée qui
mais
peut aller de 10...
Mais pas uniquement sur les forfaits SFR. Sur les forfaits de l'ensemble.
Bah, SFR n'existera plus, donc sur l'ensemble en fait.
Sur l'ensemble, vous dites de combien, de quel ordre ?
Bah, on peut s'attendre 5 à 10 si on est optimiste, et si on est dans un scénario un peu catastrophe, c'est 15 à 20% ce qu'on a vu dans les autres pays comme l'Allemagne, l'Irlande et l'Autriche.
Reste la question aussi de l'emploi. Benjamin, je crois, s'en inquiétait. Bonjour Benjamin, vous nous avez appelé au 3216, vous êtes vous-même client à SFR, vous vivez à Bruay-la-Bussière, dans le Pas-de-Calais, dites-nous.
Ben voilà, bonjour à Pauline. Tout d'abord, je tenais à remercier SFR parce que ça fait plus de 20 ans qui m'accompagne.
Oui.
Et moi, ce que je dis à ce monsieur, parce que là, je suis en train de vous regarder en direct, c'est que en fait, il faut arrêter de prendre les clients pour des lapins de 3 semaines. Parce qu'en fait, les 20 milliards d'euros qui vont être dépensés pour le rachat de SFR, là, va bien falloir le récupérer tôt ou tard. Donc, ils vont pas donner 20 milliards d'euros comme ça. Et jamais récupérer l'argent. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pour les emplois, parce que ce monsieur en a très bien parlé lors de votre émission. Moi, je pense aux emplois directs, parce que moi, étant client, j'ai toujours affaire à des dames charmantes ou à des messieurs charmants au téléphone. Quand j'ai un souci avec mon matériel et tout ça, je me rends en boutique SFR avec des personnes super influentes et toujours dans la bienveillance et tout ça. Ainsi que tous les emplois indirects, comme ceux qui viennent vous installer la fibre chez vous. Je vais employer une société qu'on connaît très bien qui s'appelle ERT Technologies,
ouais,
qui viennent chez vous vous câbler tout ça. Ben moi, je pense à tous ces emplois-là.
Vous avez bien raison. C'est une des questions importantes, à la fois les emplois directs et les emplois indirects, Benjamin. Officiellement, il reste 8000 salariés d'SFR. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, Stéphane Dubreuil, pour reprendre la question de Benjamin ?
Alors Benjamin a tout à fait raison, c'est-à-dire que le staff, en fait, les équipes à la fois techniques, commerciales, marketing, RH et comptabilité vont être réparties sur les trois opérateurs. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment va se passer la répartition. Effectivement, quand c'est un service qui bascule directement, c'est-à-dire une fonction qui est facilement identifiable, on va dire c'est assez facile. Quand vous êtes sur une fonction transversale, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on ne sait pas exactement comment on va se faire.
Officiellement, aujourd'hui, il leur est réservé quel sort ?
Aujourd'hui, ils ne savent pas, et je pense que même les opérateurs qui rachètent ne savent pas dans le détail aujourd'hui quelle personne ils récupèrent. Faut être assez clair. Aujourd'hui, on est sur une analyse très macroscopique. On n'est pas à dire tel individu va là ou là. Donc, je peux comprendre déjà, un, l'inquiétude, ça c'est clair. Et deux, pour répondre à la question, il est évident qu'il va y avoir ce qu'on appelle dans le jargon une optimisation. C'est-à-dire qu'on risque forcément de passer de 8000 à 4000, voire peut-être 2000. Le vrai point, moi, c'est ce qui m'a toujours vraiment étonné, c'est que quand SFR a été racheté en 2014-2015, il y avait 15 000 personnes. À la fin, SFR va disparaître à horizon 2030, c'est une réalité.
Merci beaucoup Stéphane Dubreuil, économiste et spécialiste des télécoms. Merci aussi à Benjamin qui nous appelait de Bruay-la-Bussière dans le Pas-de-Calais. Benjamin, soyez le bienvenu, je crois que c'est la première fois que vous passez la porte du 32-16. Hein.
Oui. Puis ça fait des années que je vous regarde, Apolline, et ça fait des années que il y a des sujets que vous avez arborés qui me dressaient les poils et que je souhaitais.
Revenez quand vous voulez.
C'est parce que je voudrais intervenir une dernière fois. C'est le monsieur qui parlait des prix. On disait la même chose pour les 2 euros du litre. On parlait pour la même chose pour les 2 euros du litre. Et en fin de compte, nous y sommes arrivés aux 2 euros au litre.
Ce serait impossible. Et en effet, on y est. Merci beaucoup. Benjamin, il est 7h20 sur RMC. On va remonter le temps dans un instant avec Thierry Lenz ce matin. Bonjour Thierry.
Bonjour.
On connaît l'île de Sainte-Hélène, là où Napoléon a fini sa vie en exil, mais on sait moins que l'île a aussi joué un rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez nous le raconter?
Eh oui, Apolline, en juin 1940, les domaines français de Sainte-Hélène ont annoncé leur ralliement à la France libre du général de Gaulle.
Vous nous le dites dans un instant. Notez aussi que pour la suite du programme, le face-à-face à 8h30, mon invité, ce sera Manuel Bompard, le bras droit de Jean-Luc Mélenchon. Arnaud Demanche arrive pour le pirater dans un instant. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et c'est l'heure de remonter le temps, comme chaque jour sur RMC. Ce matin, c'est avec Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon. Et donc, vous avez bien choisi votre sujet ce matin. Parce que Thierry, vous avez vu ce week-end le film d'Antonin Baudry, La bataille de Gaulle, qui vient de sortir au cinéma. Il raconte les débuts de la France libre, le mouvement créé par le général de Gaulle en 1940. Votre regard d'historien d'abord sur le film?
Écoutez, le film m'a beaucoup plu. C'est un film de cinéma, donc il simplifie beaucoup les choses. Mais en tout cas, il va montrer au public pas toujours très informé, à quel point la France libre, c'est une épopée avec des personnages extraordinaires.
Et on a hâte aussi de connaître la suite, parce que c'est en deux volets. La deuxième, c'est le 3 juillet prochain, il faut aller voir le premier avant. Le film, il met en avant un aspect assez essentiel pour De Gaulle, le ralliement des colonies françaises à la France libre.
Oui, à l'époque, le soleil ne se couche jamais sur les possessions françaises, que ce soit en Afrique, en Asie, aux Antilles. Et posséder cet empire, c'était pour De Gaulle montrer aux Anglais, qui doutaient quand même de lui, qu'il avait derrière lui des territoires, des populations et des moyens. Et la France libre a obtenu progressivement le ralliement de ces territoires avec beaucoup de culot grâce à la trempe des hommes qui entouraient le général de Gaulle. Ceci étant, j'ai un petit regret, tout petit, en ayant vu ce film.
Pourquoi? Il y a quelque chose qui me dit que ça doit avoir un lien avec Napoléon.
Et oui, savez-vous, Apolline, quel est le premier territoire français qui s'est rallié à la France libre? Eh bien, ce sont les domaines français de Sainte-Hélène.
Alors, qu'est-ce que c'était les domaines français de Sainte-Hélène? Alors,
les domaines français de Sainte-Hélène, c'est toujours aujourd'hui 3 petits terrains enclavés dans l'île britannique de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique Sud. C'est là où Napoléon a vécu 5 ans d'exil et où il est mort en 1821. En tout, ça représente à peu près 10 hectares, achetés par la France en 1858 et qui étaient gérés en 1940 par un dénommé Georges Collin, ancien adjudant du génie et qui était donc le conservateur des lieux.
Et c'est cet homme-là qui a décidé de rallier la France libre?
Oui, dès le 23 juin 1940, c'est-à-dire 5 jours après l'appel du général, Collin envoie un télégramme à De Gaulle à Londres dans lequel il écrit « Un souffle de Sainte-Hélène ». Outré par la capitulation sans condition, suis à votre disposition. Et donc, avant même que Churchill ne reconnaisse la France libre, il met ce territoire à la disposition de l'administration du général de Gaulle. Et il faudra attendre le 18 juillet 1940 pour enregistrer un autre ralliement, qui est d'ailleurs montré dans le film, celui des Nouvelles-Hébrides, un petit archipel de l'océan Indien, avant, à la fin du mois d'août, les grands territoires africains.
Quels sont les moyens que Georges Collin met à la disposition de De Gaulle?
Alors là, il faut dire quand même presque rien. Effectif, 5 personnes, lui, son épouse, 2 gardiens, un jardinier. Les moyens militaires, c'est quelques vieux sabres qui sont entreposés dans le musée. Et les moyens financiers, 0. Mais quel symbole! La mémoire de Napoléon, d'ailleurs que De Gaulle ne vénérait pas autant qu'on pourrait le croire, la mémoire de Napoléon se met donc au service d'une cause qui est pour le moment sans véritable armée, sans véritable moyen, et c'est même d'ailleurs la France libre qui finira par venir au secours des domaines de Sainte-Hélène avec la prise en charge financière du poste en 1942. Georges Collin, lui, va rester sur place jusqu'en 1945, Il est mort en 1962 et son souvenir est perpétué sur place par le conservateur actuel. Et désormais, il n'est plus un inconnu pour les auditeurs d'Apolline Matin.
Et j'en suis très heureuse. Merci à vous de lui avoir rendu aussi cet hommage. La première terre, le premier territoire qui officiellement pouvait effectivement se revendiquer de la France libre. Merci Thierry Lenz, le premier volet donc de la bataille de Gaulle. C'est d'hier au cinéma depuis mercredi dernier. Et votre chronique, elle est à retrouver comme toutes les autres sur le podcast d'RMC 7h26, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Et bonjour Arnaud.
Bonjour.
Avec tout à l'heure sur RMC et BFM TV, mon invité, ce sera le coordinateur national, c'est comme ça qu'on dit, de la France Insoumise, Manuel Bompard.
Oui, sinon on peut dire grand stratégaire. Ça claque aussi, grand stratégaire des Insoumis, car hier, Jean-Luc Mélenchon est rentré en campagne à Saint-Denis avec un grand meeting devant la basilique et nécropole des rois de France. C'est-à-dire Mélenchon, il veut rassembler large. De la gauche radicale jusqu'aux Capétiens. C'est Thierry Lenz qui va être content. Alors Sébastien Delogu était super déçu parce qu'il pensait que la basilique c'était un resto italien, c'était quand même mieux, parce que c'est ce qu'on met avec les tomates à la basilique. Jean-Luc Mélenchon est très en avance sur ses concurrents à gauche. Il a même pas fait de primaire dans son parti, parce que Mélenchon il aime tellement la démocratie. Faut pas l'abîmer en s'en servant trop, vous voyez. Par contre, le reste de la gauche, il est tellement divisé, il pourrait organiser une primaire avec un seul candidat et finir avec trois vainqueurs dans son âge. Alors, chez les Insoumis, Mathilde Panot a appelé à la démission de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Ce dernier a déploré les dysfonctionnements dans l'affaire Liana. Ça, on l'a entendu tout le week-end. Justice, que du dysfonctionnement, madame de Malherbe. C'est la carte joker. C'est « Oups !» Ça a déconné.
Ça a dysfonctionné.
C'est un peu comme quand nous, on a besoin d'un papier important, on va à la mairie et on l'a pas parce que l'ordinateur, il veut pas. C'est l'informatique. Josiane! Le logiciel veut pas! D'ailleurs, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Édouard Philippe ou Gérald Darmanin ont dénoncé plus ou moins fermement, la médiocrité de l'action du gouvernement depuis des années sur la justice et la police. En gros, Retailleau, Attal, Philippe et Darmanin dénoncent la médiocrité de l'action de Retailleau, Attal, Philippe et Darmanin. Merde, ils sont dedans, ils sont dans la liste. Alors on connaît la suite, le gouvernement a annoncé une enquête administrative. Et ben si ces enquêteurs-là sont aussi bons que les enquêteurs sur lesquels ils enquêtent, le résultat va être funky. Je lisais au sujet de Jérôme Barella, une plainte a été déposée en août 2025 et en juin 2026, le gars avait même pas été auditionné. J'ai même lu que la mère avait tenté d'appeler la police elle-même. Les policiers m'ont clairement dit que je les saoule et si j'arrête pas d'appeler, ils déposeraient une main courante pour harcèlement. Voilà où on en est. Quand tu te sens assez en confiance pour dire ça à la mère, c'est que t'es pas dans un système qui dysfonctionne. C'est un peu facile de jouer « Josiane, la justice, elle est toute cassée. T'as du scotch. Essaye avec un trombone. Mets un trombone dans Darmanin. Pousse. Ça marche ? Non, c'est cassé. » C'est vraiment bien ce moment de détente à 7h20 avec les vannes sur des sujets feel good. On devrait faire ça plus souvent.
Bah,
à
oui, alors.
La prochaine fois, j'amène des bières et du pâté.
Avec
un petit accordéon. En attendant, rendez-vous.
C'était Arnaud Demanche qu'on retrouve à 8h15 tout à l'heure. Vous êtes bien sur RMC. Il est 7h29. À tout de suite, la météo et le journal. 7h31, le retour de la pluie, Géraldine.
Et par la Bretagne ce matin, qui va toucher tout le nord-ouest dans le courant de la journée, des Pays de la Loire, à l'Île-de-France, aux côtes de la Manche. De gros orages aussi attendus entre les Pyrénées, le Massif central et le Grand Est. Parfois de la grêle, en revanche, ce sera du soleil, des Alpes à la Méditerranée. Et des températures très contrastées en attendant le retour des grosses chaleurs ce week-end. Il faudra se contenter de 16 degrés à Brest cet après-midi, 22 à Paris, à Bordeaux. Il fera 28 à Marseille, 30 à Lyon, 31 même à Grenoble.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
7h31 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal.
Bonjour à toutes et à tous. Les procureurs généraux convoqués ce matin par Gérald Darmanin dans le sillage de l'affaire Liana et de ses dysfonctionnements en chaîne. Le principal suspect était visé par 9 procédures pour viol et agression sexuelle. Échange de frappes entre l'Iran et Israël ce matin. C'est dans ce contexte de reprise des hostilités que l'équipe iranienne de football est arrivée au Mexique pour le mondial. Nous serons en direct de Tijuana dans un instant. Enfin, la 125e édition de Roland-Garros remportée par Alexander Zverev, l'Allemand qui obtient sa revanche en remportant son premier grand chelem.
Merci Grégoire Moigny. On commence tout de suite votre journal avec ces plaintes, plusieurs plaintes qui avaient déjà été déposées contre le principal suspect dans l'affaire Liana.
Et parmi elles, celle qui vient d'être déposée par ce père de famille. Vendredi, pas de réponse du parquet à ce stade, mais il raconte que sa fille aurait été agressée sexuellement par Jérôme Barella en novembre dernier, Marion Gauthier.
Sa fille connaissait Liana et a parlé lors d'une cellule psychologique ouverte la semaine dernière. Sa fille était aussi une amie des enfants de Jérôme Barella. Elle aussi a été invitée à une soirée pyjama.
Donc cette soirée-là, elle a subi des attouchements par M. Barella. Il a touché les seins, il a touché la plaque contre mur.
Patrice parle d'un protocole d'agression.
C'est malheureux, ça ne devrait pas exister des gens comme ça sur Terre. S'il n'y a pas de mots, c'est un enfant, on ne doit jamais toucher un enfant. Pour moi, c'est inadmissible. Il n'y a pas de mots, honnêtement.
Et même si Jérôme Barella reste présumé innocent, Patrice rappelle les plaintes déposées contre lui. Il dit sa colère, il ne comprend pas que ce suspect n'ait jamais été entendu avant la disparition de Liana.
Ça aurait peut-être pas passé s'il n'y aurait pas eu cette erreur de la justice. Et je pense que ça aurait pu se passer aussi à ma fille, à moi, parce qu'il a proposé à plusieurs reprises de la ramener en voiture, ça, et on avait toujours dit à ma fille de jamais monter avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et...
impossible de savoir si sa fille a tout dit, si elle a subi plus que des attouchements, soupire Patrice. Elle se renferme, dit-il, elle est accablée.
Et après la marche blanche organisée hier en hommage à Liana à Florence dans le Gers, des mobilisations prévues aujourd'hui devant de nombreux tribunaux en France. À l'appel d'Andrea Bescon, elle-même victime de viol en 1987 lorsqu'elle avait 6 ans, la réalisatrice et autrice invitée de RMC ce matin veut dénoncer l'injustice de trop.
Il est important de se réunir, il est important en tout cas que le gouvernement et les gens qui nous gouvernent constatent qu'aujourd'hui on ne peut plus tolérer ces injustices. On a toujours eu beaucoup, beaucoup de mal à fédérer autour des violences faites aux enfants. C'est David contre Goliath. On a le gouvernement qui dit, nous on a tout fait, on a mis les budgets, alors ce n'est pas vrai, ou alors on vit dans une dimension parallèle. Mais quand Monsieur Darmanin dit aujourd'hui, je vais réunir tout le monde et personne ira en vacances avant que nous ayons traité chaque dossier, je tombe de ma chaise en fait. C'est quelque chose qu'ils savent depuis toujours.
Et je vous le disais, dans le sillage de l'affaire Liana, le ministre de la Justice convoque ce matin les 36 procureurs généraux que compte le pays. Gérald Darmanin qui veut faire le point sur les 70 000 plaintes concernant des viols ou attouchements sexuels sur les enfants d'ici le 14 juillet. Cette revue des plaintes, on y reviendra à 7h40 avec Frédéric Chevalier, procureur de la République de Chartres et président de la Conférence nationale des procureurs de la République. Des explosions entendues à Jérusalem ce matin, cela fait suite à des bombardements iraniens sur Israël. Plus tôt dans la matinée, c'est l'État hébreu qui a annoncé avoir visé des installations militaires de la République islamique. Ces échanges de frappes sont une première depuis le cessez-le-feu du 8 avril dernier. C'est dans ce contexte que doit s'ouvrir le mondial de football jeudi. L'équipe iranienne a atterri hier au Mexique. La sélection a établi son camp de base à Tijuana où l'on retrouve en direct Nicolas Pelletier. Nicolas, vous êtes l'un des nombreux envoyés spéciaux de RMC pour suivre ce mondial et dans ce camp de base de l'équipe d'Iran, il a pris des allures de camp retranché.
Oui, seulement quelques salutations des joueurs iraniens à la fenêtre de leur chambre d'hôtel pour le public qui passe à l'extérieur devant l'entrée de la résidence. Pas moins de 300 militaires de la garde nationale mexicaine, cagoulés et armés jusqu'aux dents, escortent en permanence les moindres déplacements des membres de la délégation iranienne. Sûrement l'endroit le plus sécurisé de la Coupe du Monde, sourit un policier mexicain posté à l'hôtel dans le centre de Tijuana, à seulement quelques mètres de la frontière avec les États-Unis. Des Iraniens qui logent au Mexique mais qui joueront leurs 3 matchs du mondial de l'autre côté de la frontière. Le premier programmé à Los Angeles à 2 heures de route. Concernant l'accueil de l'équipe sur le sol américain, la question des visas n'est pas complètement réglée. Tous les joueurs l'ont obtenu, mais pas tous les membres du staff. Globalement, tout est flou. Sur la question centrale des visas, la FIFA cherche encore des réponses auprès de l'administration américaine.
Nicolas Pelletier en direct de Tijuana au Mexique pour RMC. Une vidéo fait polémique depuis samedi. Elle montre des enfants en tenue militaire arborant des pistolets à eau lors d'un spectacle de fin d'année dans une école de maternelle à Montreuil en région parisienne. Publiée sur les réseaux sociaux, cette vidéo provoque de vives réactions jusqu'à celle du ministre de l'Éducation nationale qui dénonce des images choquantes, Léonie Guilbeault.
T-shirt à imprimé camouflage militaire, lunettes de soleil sur le nez et pistolet à eau multicolore à la main. Sur les images, 7 enfants dansent sur le très populaire titre chargé. La vidéo est captée depuis le public où les parents applaudissent. Certains chantent même les paroles « Sortez les armes chargées ». Des images choquantes selon le ministre de l'Éducation nationale. D'après nos informations, cette scène se serait bien déroulée durant un spectacle de fin d'année en maternelle avec pour thème les pacifismes au XXe siècle. Les enfants auraient ensuite retiré les tenues militaires pour dévoiler des t-shirts blancs avec le symbole Peace and Love, ce qui n'est pas montré dans l'extrait. Le ministre, qui n'exclut pas des sanctions, indique avoir demandé au recteur de l'Académie de Créteil de faire toute la lumière sur les faits.
Premier titre en grand chelem pour Alexander Zverev. Il a remporté hier la finale de Roland-Garros face à l'Italien Flavio Cobolli. L'Allemand de 29 ans qui n'a pu retenir ses larmes après la balle de match.
Toutes les émotions jaillissent. Ce cours est très spécial pour moi car j'y ai vécu l'un des moments les plus difficiles de ma carrière. Il y a 4 ans, j'étais allongé au même endroit. Je m'étais blessé en ne sachant pas si j'allais m'en remettre un jour. Tous ces souvenirs pour moi ne sont pas effacés. Ils seront toujours là, mais cette victoire les surpassera tous. This one will beat
all of them. Enfin, ce soir, les Bleus disputent leur dernier match avant de s'envoler pour la Coupe du Monde. Coup d'envoi à 21h10 à Lille face à l'Irlande du Nord. À suivre, bien sûr, sur RMC. RMC, où vous pourrez vivre tous les matchs du Mondial 2026 dès l'ouverture de la compétition jeudi soir.
Et puis le quintet, ce sera sur l'Hippodrome d'Angers.
Début de la course à 18h30. Voici le pronostic de RMC. Le favori est le 2, Zulu Warrior. L'outsider est le 9, King Trezy. Le 2, le 9.
Merci pour ce journal. C'était le journal de Grégoire Morelli. Il est 7h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il n'y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances tant que je n'aurai pas vu un par un les procureurs généraux pour qu'on fasse le bilan de sa cour d'appel, qu'on voit ce qui manque, s'il y a des difficultés ici ou là, peut-être des problèmes avec le ministère de l'Intérieur, peut-être des problèmes d'experts parce qu'il manque des psys ou des médecins légistes. Il peut y avoir ce genre de problème.
Les procureurs pointés du doigt, coup de semonce hier du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui convoque donc ce matin les procureurs généraux. Qui est responsable? Qui prendra d'ailleurs ses responsabilités? Bonjour Frédéric Chevalier, vous êtes procureur vous-même, vous êtes procureur de Chartres et vous représentez les procureurs partout en France. Votre ministre de la Justice qui exige donc que l'ensemble des 70 000 peines impliquant des mineurs soient passées en revue, est-ce que vous redoutez d'être les boucs émissaires dans ce fiasco de l'affaire Liana? Je vous pose évidemment la question dans un instant. Et vous qui nous appelez au 3216, n'hésitez pas, appelez-nous.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h43 sur RMC et sur RMC Story. Après la mort de la petite Liana, les procureurs généraux sont convoqués dans moins d'une heure par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui exige que l'ensemble des plaintes impliquant des mineurs soient examinées d'ici la mi-juillet. Personne ne partira en vacances tant que les 70 000 plaintes ne seront pas parlées au crible, passées au crible. Voilà ce qu'il dit. Bonjour Frédéric Chevalier. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes procureur vous-même à Chartres et vous présidez la conférence nationale de tous les procureurs de la République. Comment vous vivez ce moment où Gérald Darmanin a tapé du poing sur la table en quelque sorte en disant « vous ne partirez pas, vous, Frédéric Chevalier, vous, tous les procureurs, en vacances, tant que tout n'aura pas été passé au crible ». Comment vous le prenez d'ailleurs? Est-ce que vous prévoyez du coup de partir en vacances?
Bonjour madame, merci de m'inviter au nom de la conférence nationale des procureurs de la République. Il y a beaucoup d'émotions dans cette affaire. Et cette émotion, l'ensemble des procureurs, des magistrats des parquets, des magistrats en général, la partagent. Après, il y a la colère, j'ai entendu. Vous savez, quand on est en responsabilité, la colère, elle est souvent très mauvaise conseillère. Quand on est en responsabilité, il faut pouvoir garder la tête froide. Et aujourd'hui, je trouve que ça dérive. Et que jeter en pâture des magistrats du parquet dont... Le but, la mission, la conviction, c'est que tous les matins on se lève, madame, pour faire en sorte que ces drames n'existent jamais. C'est vrai que la colère, moi je la partage pas, et je veux, comme tout le monde, comme les Français, comprendre, savoir ce qui s'est passé. Moi j'en sais rien. Vous savez, il y a un article 11 du Code de procédure pénale qui dit que l'enquête et l'information judiciaire, elle est secrète. Bon, apparemment, il y a plein de monde qui savent beaucoup de choses sur tout. Moi j'en sais rien, madame. Je sais ce que vous en dites. Et pour l'instant, j'ai trouvé très bien que notre ministre diligente une inspection, comme le ministre de l'Intérieur, parce que l'inspection, elle va répondre à ces questions.
Ça, c'était la première étape. Première étape, c'était une inspection générale, administrative. Et puis, hier, cet appel plus, j'allais dire presque plus menaçant, nous ne partirons pas en vacances tant que les 70 000 plaintes. Sous-entendu, il y a dans vos tiroirs, il y a sur vos bureaux, des plaintes en souffrance, qui ne sont pas examinées et qui laissent des enfants sans protection.
Il n'y en a pas 70 000, il y en a 3 400 000, tout contentieux confondu. On le sait depuis des années, c'est renseigné. Tout le monde connaît l'état dans lequel les services enquêteurs, notamment, hein, parce que les 70 000 procédures, on va les trouver où, madame?
On va les chercher dans les brigades. Les 70 000, ce sont celles qui concernent, dit-il, les mineurs.
Les mineurs, très bien. Je dis simplement qu'il y a d'autres personnes victimes aussi, moins gravement sans doute, mais enfin, il y en a au total 3,4 millions. On va les chercher où? On va aller chez les camarades policiers et gendarmes et on va regarder. Mais enfin, c'est ce qu'on fait déjà tous les jours. Moi, mon parquet, par exemple, mes collègues vont plusieurs fois par semaine dans les services de police, de gendarmerie, pour faire l'état des stocks, pour donner des réponses pénales, pour faire avancer les procédures. Bon, alors, on va le faire, ce recensement. Pas de difficulté, on ira de nouveau chez les policiers et les gendarmes pour le faire. Et après? Et après, ben, il va falloir les traiter, ce qu'on fait de manière nécessaire, quotidienne. On va les traiter. Évidemment, si on traite prioritairement, on va mettre de côté un petit peu d'autres sujets. On est prêt à le faire.
Vous voulez dire qu'ils sont tous prioritaires?
Ben, la priorité, Gérald Darmanin, il a été clair quand il est arrivé. C'est le narcotrafic, les atteintes aux personnes. Parmi les atteintes aux personnes, on a 5 catégories, dont les mineurs. Ça fait, mais on n'a pas attendu Gérald Darmanin. Hein. Monsieur Dupond-Moretti nous avait dit en mars 2023 sur 14 pages, consacrez-vous à cette lutte. Enfin,
pardon, je vais vous arrêter un instant, Frédéric Chevalier. Vous dites, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ça vous ennuie, visiblement, qu'effectivement, un certain nombre d'éléments soient sortis par voie de presse la plupart du temps, alors que, dites-vous, l'enquête, elle est secrète. Moi, je veux bien, mais il y a quand même un moment où c'est un peu facile de dire, il y a le secret. Il y a une plainte, n'en prenons qu'une, qui a été déposée le 22 août dernier. C'est une petite fille de 9 ans, puis de 10 ans, puis de 11 ans, qui dit des viols répétés. Elle dépose cette plainte avec sa maman le 22 août. Le 11 septembre, le rapport médical conclut à des lésions qui corroborent son récit de viol. Qu'est-ce qu'il faut attendre de plus? Là, vous l'avez l'élément, et j'imagine que cet élément, il a été connu de quelqu'un. La maman elle-même, plusieurs fois dans les semaines et dans les mois qui ont suivi, n'ayant elle-même pas le compte-rendu de cette enquête médicale, appelle et dit, on en est où? Et on finit par lui dire, écoutez, ça finit par être du harcèlement, vous nous saoulez, madame. Pardon, comment c'est explicable?
Madame, je dis pas qu'il s'est rien passé, je dis simplement, est-ce qu'on peut prendre le temps de la compréhension de tout ça?
Vous me donnez. Mais on l'a pris suffisamment?
Non, madame,
pardon, neuf mois non, avec une plainte dans un tiroir, vous trouvez qu'on peut prendre encore plus de temps?
Non, mais attendez, n'importe quel criminel, quand il est accusé, il a le droit à avoir une enquête sérieuse et à avoir les moyens.
Mais quand il y a un fait comme celui-là, jusqu'à quand vous continuez? Vous estimez que l'enquête n'est pas finie? On peut toujours se dire, bah oui, il faut d'autres éléments, mais qu'est-ce qui empêche de continuer l'enquête tout en allant chez le prévenu, frapper à la porte? Il y a une petite fille de 10 ans qui a été violée.
Madame, je vois que vous, comme les autres, vous avez plein
Pardon,
de...
Pardon, oui, vous de, allez me reprocher non, madame, d'être dans la colère et l'émotion.
Vous avez plein de compétences en matière de procédure pénale. Tant mieux.
Non, j'en ai aucune, je vous pose la question.
Bon, je dis simplement, sur cette affaire-là, je peux pas vous répondre, je n'ai pas les éléments.
Bah, je les ai, je viens de vous les donner.
Sauf que, non, mais madame, vous vous arrêtez au 22 septembre, au 11 octobre, au 9 février, j'en sais rien.
Non, je vous dis simplement... Le 11 septembre, il y a cet élément médical. Est-ce que cet élément médical doit rester dans le fond d'un tiroir en disant, on n'a pas encore d'autres preuves?
Je trouve que les collègues de Toulouse ont parfaitement fait le travail, manifestement, à ce que vous me dites. Bah oui, les éléments médicaux, ils les ont collectés.
Oui.
Normalement, vous savez, les collègues, ils auraient rien dû faire. Ils auraient dû simplement dire, on n'est pas compétent. À Toulouse, il n'y avait aucun critère de compétence. Ils auraient dû directement donner la plainte sur le lieu où les enquêteurs auraient dû enquêter, c'est-à-dire Hoche. Bon, ils ne l'ont pas fait par souci de préservation des investigations urgentes. Bon, ça, on peut le dire aussi. Après la suite, j'en sais rien, madame. Et c'est pour ça, et le garde des Sceaux n'en sait pas plus. Simplement, il dit, pour comprendre, pour savoir, je fais une inspection. Pourquoi, madame, pourquoi ne pas laisser le temps de 15 jours? On n'a pas 15 jours devant nous, par respect pour cet enfant, pour savoir ce qui s'est passé. Et une fois que l'inspection nous aura dit, voilà ce qui s'est passé, voilà qui a fait quoi. Et de ça, nous...
Les juges doivent-ils rendre des comptes? Bien. Les juges doivent-ils rendre des comptes?
Évidemment.
Est-ce que vous estimez qu'il doit y avoir des sanctions?
Non, j'estime qu'il faut
d'abord... C'est quoi rendre des comptes s'il n'y a pas de sanctions?
Mais madame, à quoi ça sert de faire une inspection?
Bon, alors, je ne vous dis pas une sanction aujourd'hui, je vous dis une sanction à la fin de l'inspection. Mais est-ce qu'il faudra des sanctions? Est-ce que les uns et les autres pourront...
Les magistrats ne sont à l'abri de rien. Voilà, il y a un conseil supérieur à la magistrature dont c'est un des objectifs, c'est ça, c'est de faire la discipline des magistrats. Bon, donc, ce conseil... Le garde des Sceaux, tout le monde agira une fois qu'on saura, dans maintenant moins de 10 jours, ce qui s'est passé. C'est quand même pas compliqué à comprendre.
Vous rencontrez d'ailleurs, je crois, le ministre demain. Qu'est-ce que vous allez lui dire?
On va lui dire ce que je vous dis. On va lui dire que On apprécie son engagement depuis un an et demi qu'il est à la tête de ce ministère. C'est incontestable. On apprécie les moyens qui nous ont été donnés. C'est incontestable. On apprécie le fait que on est sorti de cette clochardisation dont le garde des Sceaux Urvoas parlait pour aller vers des budgets qui deviennent corrects. C'est une trajectoire, il va falloir l'amplifier manifestement. On est là pour travailler tous les matins, on se lève pour ça, madame. Et on dira au garde des Sceaux, réservez simplement votre prise de décision une fois que vous aurez les éléments pour ça et arrêtez de jeter en pâture notamment notre collègue de Hoche.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin de venir. On le sent bien, vous estimez qu'il ne faut pas être en colère, mais vous-même vous êtes au bord de cela.
Non, je veux dire simplement les choses avec conviction, madame.
Et c'est entendu. Merci beaucoup, Frédéric Chevalier. Vous-même, donc, procureur à Chartres et président de la Conférence nationale des procureurs de la République. Merci à vous. Il est 7h51 sur RMC et c'est notre voix de droite, Charles Consigny, qui vient d'entrer dans ce studio. Bonjour, Charles. Bonjour. Grand meeting de Jean-Luc Mélenchon hier à Saint-Denis, coup d'envoi de la campagne LFI, démonstration de force. Mais pour vous, Jean-Luc Mélenchon, c'est contre-productif, c'est-à-dire?
Je pense que son programme est contre-productif. Je pense qu'il est bloqué en 1980.
Vous nous le dites dans un instant, 7h52 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, dans un instant la voix de droite, mais d'abord le bonus, Mathieu.
Avec un spectacle musical sur France 98. Le 12 juillet 98, la France devenait championne du monde pour la première fois. Et 30 ans plus tard, cette soirée historique va devenir un spectacle. Enfin, pas que la soirée. 1998, notre plus belle histoire. Un spectacle musical qui racontera l'été des Bleus de la France à l'époque. Les émotions vécues par les Français. C'est le producteur qui est déjà à l'origine de la comédie musicale La Haine qui a fait cette annonce cette semaine de début de Coupe du Monde. La bande-son devrait faire revivre les succès de l'époque. Le producteur évoque NTM ou IAM sur scène, une vingtaine d'artistes, chanteurs, comédiens, danseurs, une mise en scène mêlant musique, vidéo et théâtre. C'était aussi l'époque de l'avènement de la French Touch. Et le calendrier est fixé, écriture du spectacle 2026, première chanson dévoilée 2027, lancement à partir de 2028 pour les 30 ans du premier sacre des Bleus.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Nouvelle France, le slogan hier crié par les participants, 26 000 d'après les organisateurs. Jean-Luc Mélenchon, son meeting hier à Saint-Denis, le leader insoumis qui a déroulé une partie de son programme, SMIC à 1 700 €, retour de la retraite à 60 ans, 6e République, indépendance de la Nouvelle-Calédonie et Nouvelle France. Donc pour vous, Charles Consigny, voix de droite ce matin, Jean-Luc Mélenchon et les insoumis sont contre-productifs pour la gauche, ça veut dire quoi?
Ah, pas pour la gauche, pour la France. Moi, je constate, comme tout le monde, que le camarade Mélenchon nous a offert hier un magnifique meeting. Et ça fait du bien de voir une foule comme ça engagée et animée par une certaine ferveur militante. Néanmoins, je regarde le fond et sur le fond, au fond, je suis même un peu déçu parce que je regarde les propositions qui sont extrêmement classique, pas original, et qui, à mon sens, sont extrêmement mauvaises pour le pays. Je pense notamment à la retraite à 60 ans. Il n'y a pas un économiste sérieux, pas un, qui défend l'idée de la retraite à 60 ans en France. Tout le monde dit que c'est une connerie sans nom et que ça n'est pas finançable, par exemple, mais ça n'est qu'un exemple.
Ça veut dire que vous êtes presque déçu que Mélenchon fasse de la gauche, quoi.
Non, je suis déçu qu'il manque de créativité, si vous voulez. Autant j'ai été surpris, enfin pas surpris d'ailleurs, mais il a réussi à attirer Annie Ernaux, qui à mes yeux est une très grande écrivain, dans ses filets, et à lui faire s'exprimer au pupitre. Alors je savais qu'elle était aussi mauvaise femme politique que bonne écrivain, donc je suis pas très très étonné. En revanche, j'attendais plus de créativité sur le plan des propositions. Et là, bon, on est
sur le SMIC à 1 700, sur la retraite à 60 ans, sur la 6e République. En effet, vous vous y attendiez. Qu'est-ce que vous pensez aussi de l'autonomie plus grande des différents territoires? Pour la Corse notamment, une autonomie étendue, et alors pour la Nouvelle-Calédonie, l'indépendance.
Carrément l'indépendance. Bah, je pense que c'est en réalité l'affaiblissement de notre pays. Et en fait, c'est très frappant de voir à quel point, à l'extrême gauche, on se fiche complètement d'avoir une France puissante, d'avoir une France qui compte dans le monde. Sachez par exemple que la France est le pays dans le monde, devant les États-Unis, qui dispose du plus grand domaine public maritime, des plus importantes eaux territoriales, notamment grâce à la Nouvelle-Calédonie, grâce à tout un tas de territoires qui font partie de notre puissance, qui font partie de notre capacité à nous déployer à l'international. Ça n'intéresse pas du tout Mélenchon, de même que plus d'autonomie pour la Corse, etc. Tout ça, c'est de la démagogie pour essayer de racoler quelques votes corse. Tout ça, à mon sens, va contre la puissance française et donc in fine contre les classes populaires, puisque si vous appauvrissez le pays, vous appauvrissez ces classes populaires.
Un mot aussi de ce slogan qu'on a entendu. Écoutez les cris de la foule. Ce que vous distinguez là dans la foule, c'est le cri « On est chez nous », un cri qu'on entend d'habitude du côté du RN, voire même du Front National d'avant, ce « On est chez nous », mais qui se veut évidemment à l'inverse, le côté « On est chez nous, Nouvelle France ». Comment vous réagissez à ça ?
Alors, je ne veux pas le diaboliser. Je suis sûr que beaucoup de gens se précipiteraient pour dire « Ah voilà, ça veut dire qu'ils font du séparatisme territorial, ça veut dire qu'ils sont dans je ne sais quelle conquête, etc. » Je pense qu'effectivement, c'est une espèce d'écho au slogan du Rassemblement National, qui en tout cas est scandé dans certains meetings du Rassemblement National. Moi, je pense, pour le coup, je vais vous dire, je vais reconnaître une chose à Mélenchon, même s'il le fait par le clientélisme le plus affreux et parfois par des allusions antisémites ou autres dont tout le monde a compris le sens et la portée. Je pense quand même qu'il fait l'effort de parler à toute la France, si vous voulez, à la plus large partie de la France possible. Et là-dessus, je lui reconnais ça et je pense que les autres partis devraient faire eux aussi l'effort.
Mais vous voyez que vous avez été surpris finalement alors.
Alors par cette... Ah. Non mais bien sûr, par la marée humaine, etc. Ça, tout le monde le voit. Mais je pense que sur ce plan-là, les autres partis pourraient faire aussi cet effort d'aller retrouver un peu le peuple dans toute sa diversité.
Charles Consigny, la voix de droite. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Dufaux. Et puis notez qu'à 8h30, ce sera Manuel Bompard, mon invité. 7h58, à tout de suite pour la météo de journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
8h sur RMC, le retour de la pluie, Géraldine.
Par le nord-ouest, par la Bretagne ce matin, puis qui va toucher les pays de la Loire jusqu'aux côtes de la Manche cet après-midi. On va aussi avoir de gros orages entre les Pyrénées, le Massif central et le Grand Est, avec des risques de grêle, surtout autour du Massif central. Ailleurs, ce sera souvent nuageux, mais on aura quand même du soleil des Alpes à la Méditerranée, avec des températures très contrastées entre l'est et l'ouest. L'ouest, où on a des températures de saison cet après-midi, mais il va faire chaud dans l'est, jusqu'à 31 degrés à Grenoble, 30 à Lyon, 28 à Marseille, il fera 22 à Paris, Bordeaux, 20 à Lille ou La Rochelle. Et à noter qu'il va faire très chaud à nouveau ce week-end pour tout le monde.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
8h01 sur RMC, tout de suite le journal de Quentin Vinet.
RMC, Apolline Matin.
Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'État va-t-il tirer les leçons de l'affaire Liana ? Réunion ce matin, 8h30 au ministère de la Justice, les procureurs généraux convoqués par le garde des Sceaux et une centaine de rassemblements prévus ce soir, on fera le point devant les tribunaux. L'Europe appelle à la désescalade ce matin au Moyen-Orient où les échanges de tirs ont repris cette nuit entre Israël et l'Iran, des scènes qu'on n'avait pas vues depuis 2 mois. Et on sera à Lille à la fin de ce journal où les Bleus vont jouer ce soir à un match de préparation au Mondial. Ce sera contre l'Irlande du Nord avant de décoller pour les États-Unis.
Les 36 procureurs généraux du pays sont convoqués ce matin au ministère de la Justice.
Oui, convoqués par Gérald Darmanin qui veut tirer les leçons à des dysfonctionnements de l'affaire Liana avec un suspect, vous le savez, visé par 9 procédures judiciaires. Il demande donc aux magistrats de reprendre les 70 000 plaintes concernant des enfants d'ici au 14 juillet, sans quoi personne ne partira en vacances cet été. Romain Cluzel, du service politique à RMC, vous êtes en direct avec nous ce matin. C'est un chantier titanesque là qu'il demande.
Exactement, le ministre de la Justice veut taper du poing sur la table. Il estime que sa consigne n'a pas été respectée. Prioriser le traitement des plaintes concernant les violences sexuelles sur mineurs. On l'a entendu il y a quelques minutes sur notre antenne. Le président de la Conférence nationale des procureurs de la République, Frédéric Chevalier, dénonce une dérive. On jette en pâture les magistrats du parquet, selon lui. Plusieurs procureurs s'inquiètent. Réexaminer ces 70 000 plaintes d'ici un mois, ce sera forcément au détriment des autres dossiers à traiter. Mais le ministère de la Justice maintient la pression. Un proche de Gérald Darmanin réplique : si les magistrats font bien leur travail, cette vérification prendra très peu de temps.
Et c'est pour dénoncer une injustice de trop au lendemain de la marche blanche qui a réuni 6000 personnes à Florence, qu'associations et collectifs appellent à des rassemblements ce soir, 19h, devant les tribunaux partout en France. Il y en a déjà une centaine prévues dans tout le pays, comme ici dans le Sud-Est avec notre correspondante Anna Jojard.
Bonjour.
Son paquet de tracts à la main, Anne-Cécile Collet interpelle les passants dans les rues de Nice.
Rendez-vous au palais de justice à 19h.
Elle est présidente de l'association de protection de l'enfance Les Petits Invincibles.
On est en colère de ce qui s'est passé pour la petite Liana. C'est l'injustice de trop qui, on l'espère, fera prendre conscience que ça ne peut pas continuer.
Un appel qui trouve un écho auprès de ces Niçoises qui seront devant le tribunal ce soir.
On se sent vraiment concerné. On se dit que maintenant, il serait temps que vraiment ça bouge.
Il faut qu'il y ait une action qui soit prise. Il faut qu'il y ait des décisions de justice qui changent.
Et des rassemblements pour Liana, il y en aura dans plus d'une centaine de villes en France.
Je pense que ça vient parler d'un ras-le-bol.
Stéphanie Nadji est membre du collectif Enfantiste 13 à Marseille.
Liana, c'est pas un cas isolé en fait. C'est ça qui est problématique. Quand on entend M. Macron qui parle de dysfonctionnement, ça nous agace parce qu'on sait que ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est tout un système, en fait, qui n'est pas à la hauteur des chiffres des violences sexuelles ou des violences intrafamiliales ou commises sur les enfants.
Elle plaide pour une réforme de la justice et pour faire de la protection de l'enfance une priorité.
Sur 1 000 euros en dépenses publiques, seulement 5 vont à la justice, d'après les chiffres donnés par Emmanuel Macron lui-même l'année dernière. Alors le président, il va passer la journée sur les terres de son enfance à Amiens, en se rendant aujourd'hui à l'usine Goodyear, où l'État a massivement investi ces dernières années. 120 postes vont d'ailleurs être créés, le site a été modernisé. 12 ans après la suppression de plus de 1 000 emplois chez ce fabricant de pneus, d'où la colère de ces anciens salariés de Goodyear qui s'étaient battus à l'époque pour sauver leurs emplois. Écoutez-les au micro d'Inès Zegloul pour RMC.
Evelyne garde quelques vêtements, alors, comme des reliques.
C'est un t-shirt Goodyear.
Celle d'un temps révolu, de ces années où elle pointait ici tous les jours avant d'être licenciée il y a 12 ans, mise sur le carreau. Comme tous les siens, dit-elle.
On connaît les conséquences sociales qui ont été dramatiques après cette fermeture. Il y a eu des suicides, il y a eu des divorces. Le président est très au courant de ce qui s'est passé chez Goodyear. Aujourd'hui, il vient fanfaronner. C'est une insulte faite aux salariés. C'était comme une espèce de famille.
Il ne reste que la colère et la solitude.
Aujourd'hui, on est tous éparpillés. On ne se voit plus beaucoup. Non, 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 le temps a passé.
Et certains ont fui la zone industrielle où ils ont passé des dizaines d'années.
J'aime plus trop passer par Amiens. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Quand je vois mon usine à moi qui a été rasée. Ouais, ça me fait toujours un pincement au cœur.
Alors Alex a dû se mettre au vert à des kilomètres de là. Il a redémarré une nouvelle vie.
J'avais deux crédits, voiture, machin, que j'avais des enfants aussi qui avaient commencé des études et tout. Je suis traité depuis en hypertension artérielle. Aujourd'hui, on viendrait faire une propagande en disant que c'est grâce à eux si maintenant il y a du boulot, quoi. Pas du tout.
Une vaste blague, conclut-il.
À 8h06 sur RMC, l'information du matin, ce sont ces échanges de tirs qui ont donc repris cette nuit entre Israël et l'Iran. En dépit du cessez-le-feu qui est en vigueur depuis le 8 avril, Romain Houck pour RMC, ça continue encore là au moment où on se parle.
Oui, à Jérusalem notamment, où les habitants ont dû se précipiter dans les abris. Au retentissement des sirènes d'alerte, au moins 8 fortes explosions ont été entendues au-dessus de la ville sainte, alors que les systèmes de défense anti-aérienne israéliens ont été activés quelques instants plus tôt. Aucune victime n'est pour l'heure à déplorer. L'Iran dit avoir visé des bases militaires israéliennes. C'est la deuxième salve de missiles tirée depuis l'Iran vers Israël en quelques heures. Des frappes inédites depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis il y a tout juste 2 mois. Trêve qui apparaît ce matin plus que jamais fragilisée. Israël ayant également mené des frappes sur des sites militaires à une usine pétrochimique dans l'ouest et le centre de l'Iran, dont Téhéran la capitale. Et ce, contre l'avis même de Donald Trump, qui voit cette escalade d'un très mauvais œil. Il a exhorté hier soir en vain le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à ne pas répliquer aux frappes iraniennes menées plus tôt en représailles aux bombardements israéliens dans le sud du Liban, bastion du Hezbollah, allié du régime iranien.
Et c'est dans ce contexte que couvre ce matin le fameux guichet d'aide au carburant pour les artisans du BTP désormais concernés. 20 centimes par litre de gazole non routier plafonné à 4 000 euros pour les entreprises de moins de 50 salariés. Je vous signale que le trafic reprend là, en ce moment, sur les lignes A et C du RER en région parisienne, mais ça reste très compliqué. Ça a été compliqué toute la matinée après 2 accidents de personnes à Ivry-sur-Seine et à Nation. Des nouvelles de nos bleus du football. L'équipe de France qui se réveille ce matin à Lille, où elle va jouer ce soir à 21h10, et on vivra ça sur RMC. Son deuxième et dernier match de préparation à la Coupe du Monde, ce sera contre l'Irlande du Nord. Pour faire oublier la défaite de jeudi dernier contre la Côte d'Ivoire, Arthur Perrault, vous êtes au plus près des Bleus pour RMC. C'est vraiment une répétition générale, puisque l'équipe qui jouera ce soir ressemblera beaucoup à celle qui va commencer le Mondial.
Oui, ce soir à Lille, les Bleus répètent déjà leur match contre le Sénégal, indéboulonnable. Dans les cages, Mike Maignan devrait honorer sa 40e sélection en défense. William Saliba s'est débarrassé d'une blessure au dos. Le joueur d'Arsenal en Angleterre pourrait débuter avec Jules Koundé, Dayo Upamecano et Théo Hernandez. En difficulté jeudi dernier lors de la défaite 2-1 contre la Côte d'Ivoire, le binôme Adrien Rabiot-Aurélien Tchouaméni pourrait être reconduit au milieu de terrain. Mais la meilleure nouvelle pour Didier Deschamps, le retour à 100% des joueurs parisiens, fraîchement sacré double champion d'Europe. Le sélectionneur l'a annoncé hier, le ballon d'or Ousmane Dembélé sera titulaire à Lille. Il devrait être accompagné de Michael Olysée, Désiré Doué et Kylian Mbappé pour une attaque de feu à 8 jours du premier match des Bleus aux États-Unis.
Et c'est mercredi que les Bleus vont s'envoler pour leur camp de base à Boston, à la veille du match d'ouverture jeudi au Mexique, où on était en direct un petit peu plus tôt ce matin sur RMC, avec 40 personnes, vous le savez, sur place pour tout vivre de cette Coupe du Monde sur RMC radio officielle. Tiens, Coupe du Monde qui tombe en pleine finale de NBA. C'est la nuit prochaine qu'il y aura la troisième manche entre San Antonio et New York. Et alors la nouveauté la nuit prochaine, c'est que ça arrive, ça se jouera à New York qui mène déjà 2-0 dans cette finale et en présence de Donald Trump qui sera dans les gradins.
C'était le journal de Quentin Vinet. Tiens, vous parliez foot à l'instant, justement. C'est l'heure de parler économie et foot.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre est avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour
Coupe
à tous.
Coupe du Monde sur le terrain économique, on connaît déjà les vainqueurs. Hein.
Et oui, la glorieuse incertitude du sport ne vaut pas vraiment pour le business, puisque sur ce terrain-là, on sait déjà qui peut se frotter les mains. Alors il y a des évidences, le secteur du tourisme, bien évidemment, 7 milliards de dollars de recettes contre environ 2 à 4 milliards pour la dernière Coupe du Monde au Qatar, nous dit le FMI, et l'US Travel Association s'attend à ce que chaque supporter dépense en moyenne 5 000 dollars pendant cette Coupe du Monde. Bon, il y a la publicité aussi, 11 milliards de dollars de dépenses sont attendus, autant qu'au Qatar en 2022 et un peu moins qu'en Russie quand même en 2018. Et puis il y a l'économie nord-américaine. Il faut rappeler que cette Coupe du Monde, elle est co-organisée par États-Unis, Canada, Mexique. Selon la FIFA, le mondial va générer 40 milliards de PIB supplémentaires, créer 800 000 emplois, générer 9 milliards de dollars de recettes fiscales. C'est sur le Mexique que l'effet sera le plus fort, nous dit la financière de l'échiquier, plus 0,2 points de croissance cette année.
Et puis alors, le grand gagnant, c'est une entreprise chinoise.
Oui, absolument. Le grand gagnant, c'est la Chine, dont l'équipe, rappelons-le, ne s'est pas qualifiée sur le terrain. Mais cette Coupe du Monde, il faut bien spécifier que ce sera la première de l'ère de l'intelligence artificielle généralisée dans l'analyse des performances, dans la gestion des spectateurs, dans l'arbitrage, dans les images augmentées. Ce basculement technologique, il va reposer sur un flux gigantesque de données. Et qui va gérer tout ça? Eh bien, c'est Lenovo, une entreprise chinoise en partie possédée par l'État chinois. Et ça n'est pas tout. La Chine participe également à l'infrastructure de diffusion via la société Hisense et s'invite aussi dans la consommation via le sponsoring de la société Mengniu, géant laitier chinois. Donc oui, le grand gagnant de cette Coupe du Monde, c'est bien la Chine, même si
c'est déjà la Chine,
mais pas sur le terrain.
Manu, comme chaque jour sur RMC, les chiffres du jour, ça monte ou ça descend?
Alors le gazole, on est à 2,03 € le litre. C'est quasi stable depuis une semaine. En revanche, la baisse continue pour le sans-plomb 95, 1,96 € le litre, 4 centimes de baisse en une semaine. Le pétrole, bon, on est dans une étroite fourchette depuis une dizaine de jours, entre 90 et 95 dollars. Et puis le gaz est un peu remonté, on est à 50 € le mégawatt-heure, au plus haut depuis le 20 mai.
Merci Emmanuel, il est 8h11 sur RMC. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Il est 8h12 sur RMC. Restez bien avec nous. Voici le programme de la suite de la matinale. Dans un instant, Arnaud Demanche qui va venir nous faire rire à 8h30, le face-à-face. Mon invité, c'est le coordinateur national de la France Insoumise, Manuel Bompard, au lendemain de ce premier grand meeting hier à Saint-Denis pour Jean-Luc Mélenchon. On reviendra évidemment sur le programme de LFI, mais aussi sur l'affaire Liana. LFI qui estime que Gérald Darmanin doit remettre sa démission. Juste après le face-à-face, les dernières infos de la Coupe du Monde, ce sera avec vous, Mathieu.
Et qui va remporter le mondial? On est de plus en plus nombreux à pronostiquer entre amis, entre collègues, en famille. On va revenir sur ce phénomène et sur toutes les coulisses de la Coupe du Monde 2026 à 3 jours du mondial. C'est en direct à 8h50 sur RMC.
Vous ne manquez rien de la Coupe du Monde 2026 sur RMC Radio officielle.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 et il est là avec nous, Arnaud Demanche.
Et oui, bonjour, tous les jours le dit le jingle. Bonjour les amis.
Bonjour.
Ça a été le week-end?
Ouais.
Alors tiens, ce matin, j'ai une petite pensée pour nos anciens collègues, les salariés de SFR. Ils étaient dans notre tribu. SFR a été vendu, ça va fermer. Ça a dû leur faire un choc,
Enfin, parce qu'ils le savent pas encore, donc non, parce qu'ils n'ont pas reçu le texto vu qu'ils sont chez SFR,
bah oui.
Mais ça va leur faire un choc. Sinon, l'événement du week-end, c'est Bernadette Chirac. Elle est décédée, hein. Comme SFR, elle captait plus grand-chose vers la fin. Non, c'est moche. Je sais, c'est moche, c'est moche. On a tous de l'affection en plus. C'est un bout de notre enfance. C'est une icône des années 90 qui disparaît. On avait déjà perdu les Minicum, Philippe des 2B3, Chuck Norris, les Nussini, les Pog et l'Esprit Canal. Et voilà, voilà. Bernadette.
Et, voilà.
Et ce week-end, on a aussi perdu Anthony Head qui jouait Giles dans Buffy contre les vampires.
Oui. Ah oui.
Alors déjà, il y a deux mois, quand Loana était partie, c'était Xander de Buffy qui était parti en même temps. En fait, dès qu'un acteur de Buffy meurt, il prend une icône française dans la foulée.
Ah ouais.
Catherine Deneuve et Michel Drucker, ils doivent regarder le Instagram de tous les acteurs de Buffy en mode « Non, non, prends pas l'avion, mange pas ça, c'est bien nécessaire ce voyage en Amérique centrale. » Alors la classe politique a été unanime pour saluer les qualités de Bernadette Chirac. Moi, je pense que même morte, elle leur fait encore peur. Et c'est forcément un moment un peu spécial. Pour moi, j'ai un rapport très particulier aux époux Chirac. Tiens, je vais vous raconter une anecdote.
Mais non.
Si, une année. Alors, elle est vraie. Mais à un moment, elle va devenir fausse.
Ah.
Là, il y a un petit jeu. Vous devez trouver quand, à ce moment-là, vous dites « Oh non, là, c'est pas vrai. » Vous êtes prêts ?
Ouais.
Alors, quand j'avais 22 ans, je me suis fait passer pour Jacques Chirac. C'est-à-dire, je me suis rendu coupable, officiellement, d'usurpation d'identité sur la personne du chef de l'État. C'est quand même pas rien. J'avais remarqué que les noms de domaine jacqueschirac.com, jacqueschirac.org et tout ça étaient à vendre. Je les ai achetés.
Ça, c'est
et
vrai.
J'ai monté un faux blog de Jacques Chirac. Et j'ai écrit plein de conneries en son nom. Sur Poutine, sur les JO, sur Bernadette, la presse a cru que c'était vrai et l'Élysée a mis 10 jours à démentir et j'ai fini par être invité à l'Élysée pour rencontrer
non, là, c'est faux.
Jacques
non,
et Bernadette.
Non, là, c'est faux.
Bernadette et moi, on a vécu une histoire clandestine.
Ah, non, ça là.
J'étais un peu son Emmanuel Macron. Vous avez trouvé au bon endroit. Non, mais néanmoins, le couple Chirac, il a eu beaucoup d'humour là-dessus parce que j'ai pas eu d'ennui, j'ai su que ça les avait fait marrer. Voilà.
Ah bon.
Alors, Madame Bernadette, pour son engagement sur l'opération pièce jaune, qui dure depuis 30 ans, c'est très bien foutu comme système. En fait, t'as un président qui détruit l'hôpital et après, il y a sa femme qui ramène 35,70 € en pièces de 2 centimes, toute gênée, en disant « Voilà, bon, on est désolé pour les 5 millions de budget en moins. Bon, avec les voisins, on s'est cotisé. On espère que ça vous aidera. Allez, bon courage. »
C'est bien fichu. Un an et demi après la mort de Jean-Marie Le Pen, sa villa à Montretout est sur le point d'être vendue.
Oui, gros défi pour le futur propriétaire. Va falloir convaincre son entourage qu'il l'a acheté parce que elle était jolie, la maison. Rien à voir avec de la nostalgie. Moi, j'aurais bien aimé assister à une visite avec l'agent immobilier. Entrez. Alors, comme vous le voyez, c'est une maison chargée d'histoire.
Quelle histoire ?
Non, peu importe. Tiens, regardez, au mur, il y a même des jolies photos en noir et blanc. Ça, c'est un gentil grand-père.
C'est pas Pétain ? Non, il marche mal, l'interrupteur de la cave.
Non, c'est pas un interrupteur, c'est une gégène. Elle est là depuis le début. Alors, Montretout, c'est un peu le manoir de la famille Adams, de l'extrême droite française.
Oh, oncle Fétide !
Je ne suis pas oncle Fétide, je suis Eric Ciotti.
Oh, et la main baladeuse, là, c'est la chose ?
Non, c'est moi, c'est Jean-Marc Morandini. Il s'est caché à la cave, tu me rejoins ?
Si ça se trouve, c'est Jordan Bardella qui va racheter pour s'y installer avec sa princesse de Bourbon, des 2 Siciles, des 3 pièces cuisine et des 4 salles de bain. Remarquez, si la maison est hantée, vaut mieux que ce soit Bardella qui l'occupe plutôt que, je sais pas, un couple d'homosexuels mixtes, par exemple. Vous savez, il y en a un qui est marocain, qui vote LFI, l'autre, c'est Zaza Napoli. En 4 fantômes de Jean-Marie Le Pen, cela, il passerait pas un bon séjour. Marqué, on dirait presque un film des années 70. Oui. La cage aux folles contre le fantôme de Jean-Marie Le Pen, ça aurait de la gueule.
Renato, t'es sûr qu'on a bien fait d'acheter le manoir de Montretout ? Oh ! Les draps bougent tout seuls !
Ouh, n'est-ce pas ? Ouh, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous faites dans mon lit ? Fuyez, drag queen, barbu et cosmopolite, n'est-ce pas ?
Renato, hein, tu vois quelque chose ? Je suis sûr que j'ai entendu un fantôme.
Et bienvenue ! Bienvenue à l'heure des pros.
Renato ! La télé change de chaîne toute seule pour mettre ses news.
Bon courage aux futurs acheteurs et à demain.
Merci Arnaud.
C'était n'importe quoi.
C'était vraiment n'importe nawak.
Allez,
il est 8h20 et il y a Magali qui est en direct avec nous du Haut-Rhin. Bonjour Magali.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Magali ? Vous vouliez réagir à la question de la responsabilité. Qui est responsable dans l'affaire Liana ? Qui est responsable ? Surtout, qui prendra ses responsabilités ? Il y a une partie, notamment de la gauche, LFI, qui demande la démission de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, lui, demande des sanctions d'éventuels procureurs. Comment vous réagissez à ça, vous ?
Moi, je pense que de toute façon, c'est pas en demandant la démission de Monsieur Darmanin qu'on fera avancer les choses. Les problèmes qu'il y a sur la petite enfance et la maltraitance des petites enfants, ça date depuis des années, des dizaines d'années même. C'est pas la faute de ce gouvernement, c'est pas la faute du gouvernement d'avant, c'est la faute de milliers et de milliers des dizaines d'années qui sont où le système même n'est plus d'actualité. Et je pense que c'est pas en faisant démissionner M. Darmanin qu'on fera avancer les choses. Au contraire, ça risque juste de les figer. Hein. Ouais.
Et donc, d'empirer quoi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors, Magali? Quand je suis bien d'accord avec vous, et quand on regarde, en réalité, il y a une espèce de je sais pas comment vous dire, de collapse, d'effondrement global, où on a l'impression que rien ne va en fait dans cette histoire. Comment on fait?
Je suis d'accord avec vous, il n'y a rien qui va, mais ça date pas d'hier. Moi, j'ai ma sœur, elle est assistante sociale. Il y a 25 ans, elle s'est retrouvée devant le tribunal parce que le dossier qu'elle avait instruit est resté bloqué pendant les vacances au tribunal, quoi. Parce que le suivi n'a pas suivi, le petit garçon est décédé. Donc ça date d'il y a 25 ans, Apolline. Donc le problème, il date pas de Liana, et je suis bien triste, comme toutes les mamans, pour Liana. Mais ce problème, il date d'il y a plus longtemps. Donc je trouve que de faire un audit et de se poser les questions où il y a des blocages, où il y a des choses qui sont à modifier, où il y a des choses à changer, je trouve que c'est peut-être la chose par laquelle il faut commencer. Ça ne va pas résoudre le problème demain, c'est sûr. Mais il faut déjà peut-être se poser les questions de comment...
Il y aura d'ailleurs une enquête, c'est la première chose qu'avait demandé à la fois le ministre d'ailleurs de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Merci beaucoup Magali d'avoir réagi ce matin. On entend aussi votre émotion quand vous évoquez cette affaire qu'a traversé votre sœur. Il est 8h22 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, je file sur BFM TV et sur RMC toujours, bien sûr. Manuel Bompard est mon invité. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Et il demande, et je poserai votre question Magali, la démission de Gérald Darmanin. Est-ce que vraiment ça changerait quelque chose? Qui doit prendre ses responsabilités? Je pose la question dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le coordinateur national de la France Insoumise. Vous êtes également député des Bouches-du-Rhône. Vous étiez sur scène hier lors de ce grand meeting en plein air de Jean-Luc Mélenchon. On y reviendra dans un instant. C'était vraiment le lancement officiel de la campagne de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Mais d'abord, le drame de Liana. Vous l'avez entendu, Gérald Darmanin présente ses excuses à la famille de Liana. Il parle de dysfonctionnement. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, reconnaît un échec, des dysfonctionnements, un manque de bon sens. Est-ce que tout cela suffit?
Non, ça suffit pas. Le ministre de la Justice présente ses excuses, c'est la moindre des choses. Mais je vois bien qu'il y a une tentative, si vous voulez, d'aller pointer du doigt ou faire porter la responsabilité à des individus ou à des dysfonctionnements qui seraient des dysfonctionnements individuels. Alors que clairement, ce que révèle malheureusement cette tragédie, c'est un problème qui est un problème systémique de prise en charge dans notre société de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles de manière générale, et particulièrement de la lutte contre les violences sexuelles à l'égard des enfants, et que les réponses, elles ne peuvent pas seulement être des réponses de sanctions individuelles, elles doivent être des réponses qui sont des réponses systémiques. Vous savez, il y a une commission indépendante qui s'appelle la CIVISE, qui a travaillé sur les problèmes d'inceste et de violences sexuelles contre les enfants. Elle a formulé un certain nombre de recommandations, plus de 80, en 2023. Et à l'heure où je vous parle aujourd'hui, vous avez seulement 25% de ces recommandations qui ont été mises en œuvre et qui sont effectivement. Vous avez des associations qui demandent 2,6 milliards d'euros dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'en voit pas la couleur. Donc c'est ça qu'il faut faire.
Il dit, Gérald Darmanin, mais pourtant j'avais donné des instructions, j'avais fait une ordonnance, j'avais demandé à ce que les affaires qui concernent les enfants, les mineurs, soient sur le haut de la pile. Ma circulaire n'a pas été respectée.
Pardonnez-moi, mais ce n'est pas vrai. Il y a eu 3 circulaires dont M. Darmanin parle quand il est allé à la télévision avant le week-end. monde. La première de ces circulaires, elle mettait en haut de la pile des priorités la lutte contre le narcotrafic, et elle mettait en deuxième point la question des violences contre les personnes. Et à l'intérieur de ce deuxième point, elle parlait de des violences contre les enfants. Ensuite, il y a eu une deuxième circulaire qui parlait de la prise en charge et de l'accompagnement des victimes d'attaques de contre les personnes. Troisième circulaire, elle parlait des violences sexuelles contre les enfants dans le cadre scolaire et dans le cadre périscolaire. Là, en l'occurrence, malheureusement, dans la tragédie de cette de Liana, on ne parle pas du cadre scolaire ou périscolaire. Donc, ce que dit Monsieur Darmanin, c'est une manière, en quelque sorte, de s'exonérer de sa propre responsabilité, qui est une responsabilité politique et ne correspond pas aux faits. Il n'y a pas eu d'instruction de Monsieur Darmanin demandant à ce que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et la lutte contre les violences sexuelles contre les enfants soit une priorité ultime.
Il doit démissionner.
Je trouve que, si vous voulez, il y a en Macronie ce sentiment que le pouvoir politique n'assume jamais ses propres responsabilités. Et quand on est ministre de la Justice aujourd'hui, quand on a été ministre de l'Intérieur avant, puisque la question qui est posée là, c'est l'articulation entre le travail de la police et le travail de la justice, donc la responsabilité
la
du ministre de l'Intérieur et la responsabilité du ministre de la Justice, il me semble un peu normal dans une démocratie, au bout d'un moment, que les responsables politiques assument leurs responsabilités et qu'ils cherchent pas en permanence à se défausser.
Donc pour vous, Gérald Darmanin et Laurent Nunez devraient remettre leur démission.
Je trouve que la question se pose, en tout cas.
Mais vous la demandez, cette démission?
Mais ça sert à rien que je la
Mathilde
demande.
Mathilde Panot le fait. Hein.
Oui, voilà. Mais c'est surtout que je sais bien qu'il suffit pas que je la demande pour qu'elle devienne effective. Je dis juste que la responsabilité politique à un moment elle est posée, parce que sinon le sentiment qu'on envoie aux Françaises et aux Français, c'est que à la fin on cherche juste à se protéger. Or la question qui est posée, elle dépasse des personnes, elle passe des individus. C'est une question qui doit être une question de société. Comment on fait en sorte que nos enfants soient protégés? Comment on fait en sorte qu'on comprenne que les enfants sont un sujet de droit, qu'on peut pas laisser comme ça? Enfin, pardon, mais il y a 160 000 violences sexuelles contre les enfants. Quand il y a des plaintes pour viol d'enfants, il y en a 72% qui sont classées sans suite. On est en train
et
de
il y en avait
d'un...
eu plusieurs avant le drame de Liana qui concernait Jérôme Barella, le suspect. Il y en avait 4 au moment de sa disparition. Il y en a 9 aujourd'hui. Laurent Nunez dit d'ailleurs, c'est un drame qui aurait pu être évité.
Malheureusement, je crois que sur ce point, il a raison. Quand on sait que il y a une plainte qui date d'il y a plus d'un an, que cette personne n'avait même pas été auditionnée, quand on sait que un des signalements qui a été fait à la gendarmerie n'a même pas été suivi d'effet, quand on sait que cette personne a subi une sanction administrative puisqu'elle travaillait dans un établissement scolaire et qu'elle a été licenciée et qu'il y a pas eu de signalement à la justice. C'est terrible de se dire que, évidemment, c'est un drame, une tragédie, et ce sentiment atroce qu'il aurait pu
être. On va voir ce que vous proposez, vous, sur la justice, mais Manuel Bompard, vous avez dit, les sanctions, ça ne suffirait pas. Mais en faut-il tout de même?
Des sanctions individuelles.
Des sanctions individuelles. On parle de la question de la procureure d'Auch. On parle de la question de la responsabilité des uns et des autres qui n'ont pas forcément, mis en lumière ce qui se passait, qui n'ont pas forcément tiré les conséquences, par exemple, de l'analyse médicale qui avait été faite sur l'une des petites filles qui a porté plainte. Est-ce qu'il faut des sanctions individuelles?
Il y a une enquête administrative qui a été lancée. Cette enquête, elle va aller jusqu'à son terme. Si elle révèle qu'il y a eu des failles individuelles, elles peuvent faire et elles peuvent donner lieu à des sanctions. Mais honnêtement, c'est une manière de prendre le problème qui ne le traite pas dans sa globalité. Sa globalité
aujourd'hui.
On va
parler de la globalité, mais Manuel Bompard, êtes-vous opposé?
Non, je suis pas opposé. Je vous ai répondu. Si il y a une enquête en cours, c'est pas la.
Est-ce que les juges doivent davantage rendre compte de leurs actions?
Tout le monde doit rendre compte, et les juges en particulier, dans la justice aussi. La responsabilité individuelle, elle existe toujours.
Vous avez entendu s'inscrit... peut-être Bruno Retailleau qui demande une cour disciplinaire de la magistrature.
Oui, en fait, si vous voulez, tous ces coups de communication que je trouve, d'un certain point de vue, assez indécents d'ailleurs. Comme quand Monsieur Darmanin nous dit aujourd'hui qu'il va réexaminer toutes les enquêtes en cours. La belle affaire, une fois qu'on les a examinées, s'il y a personne pour les prendre en charge et pour les traiter, qu'est-ce que ça va changer? Et puis il faut un drame et une tragédie.
Cette expression, il dit, nous ne partirons pas en vacances, ni moi, ni les procureurs, tant que les 70 000 plaintes qui concernent des enfants ne seront pas examinées.
C'est de la démagogie, parce que vous pouvez les examiner, mais il faut qu'elles soient prises en charge, il faut qu'il y ait une police judiciaire pour mener les enquêtes, il faut auditionner des personnes, et puis quoi? C'est-à-dire qu'il faut une tragédie dans notre pays pour que les enquêtes suivent leur cours? C'est ça que nous dit Monsieur Darmanin. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de drame ou pas de tragédie, c'est normal que les enquêtes soient là et qu'elles ne suivent pas les... Enfin, c'est absolument absurde. Donc, on a un problème qui est un problème de clochardisation absolue de la justice. Et quand j'entends le président de la République dire « je ne veux pas entendre parler de moyens », bah si, précisément. Évidemment que la solution, ce ne sont pas que des moyens. Mais la question des moyens, elle est centrale.
Sur la clochardisation, on va en venir aux moyens que vous mettriez ou pas. Sur la clochardisation, c'est une expression qui avait été utilisée par Jean-Jacques Urvoas à l'époque où il était garde des Sceaux. Ce matin, je recevais le représentant de tous les procureurs de France. Il est lui-même procureur de Chartres. Il disait pas question d'être les boucs émissaires dans cette histoire. Mais deux, il disait pour autant, non, il n'y a plus de clochardisation de la justice en France. Là, le problème, je veux bien qu'on parle de moyens et il y a un vrai problème de moyens, mais là, le problème, c'est que il y a eu des procédures. Il y a eu, ne serait-ce que sur la plainte que l'on évoquait à l'instant, le 22 août dernier, une petite fille porte plainte avec sa maman. Le 11 septembre, il y a un examen médical qui conclut que les lésions qu'elle présente sur son corps corroborent son récit de viol. C'est pas une question de moyens, il est là le rapport, mais rien n'est fait derrière.
Bah, pourquoi rien n'est fait ? Bah, c'est la question que okay. Là vous dites c'est pas une question.
Donc pour vous rien n'est fait parce que tout le monde est débordé quoi.
Bah pas seulement, peut-être encore une fois, moi j'essaye d'avoir une vision qui est une vision complexe de cette situation dramatique. Mais quand je sais qu'il y a à peu près 3 procureurs pour 100 000 habitants en France alors qu'il y en a 11 dans la moyenne de l'Union européenne, quand je sais qu'il y a 11 juges pour 100 000 habitants en France alors qu'il y en a 22 dans la moyenne de l'Union européenne, quand je sais qu'il y a moins d'un greffier pour 100 000 habitants en France alors qu'il y en a quasiment 15 dans la moyenne de l'Union européenne.
C'est juste
vous pouvez me dire, il n'y a pas de problème de clochardisation de la justice, mais.
C'est pas moi qui le dis, c'est le procureur national qui disait ce matin.
Je veux dire, qu'on me dise, le sujet, ce ne sont pas que les moyens, et y compris le sujet, ce ne sont pas que les moyens, parce que ne focaliser la discussion uniquement sur les moyens, c'est aussi, ne pas comprendre qu'il y a un problème de culture patriarcale.
On le voit bien.
Et qu'il y a un continuum aujourd'hui entre les violences sexistes et sexuelles et dans les violences sexuelles contre les enfants. Ne pas comprendre qu'il y a des problèmes de formation, qu'il y a des problèmes de la parole de l'enfant qui n'est pas pris au sérieux, comme la parole d'une femme qui vient se plaindre n'est pas pris au sérieux.
Ces questions-là, elles sont centrales. On a eu la parole et on a ensuite les preuves médicales matérielles. Une question quand même, le tribunal d'Auch, on peut pas dire que ce soit un des tribunaux les plus débordés, en tout cas c'est ce qu'il semble. C'est pas le tribunal de Paris ou le tribunal pour enfants de Bobigny.
Bah, je sais pas, je vous invite à regarder. J'ai lu plusieurs articles dans la presse sur le fait qu'à un moment, il n'y avait plus de juges dans ce tribunal. Bon, je ne suis pas sûr que nos tribunaux, nos petits tribunaux, parce que c'est ça la comparaison que vous faites, en particulier dans les zones qui ne sont pas les grands centres urbains, soient en très meilleure santé,
vous,
si vous voulez,
au
que
pouvoir,
les tribunaux.
Vous faites quoi? Bah d'abord, pour restaurer la justice, bah pour lui donner les moyens.
Comme je vous le disais, d'abord on met en œuvre immédiatement l'ensemble des recommandations qui sont formulées par cette CIVI, cette commission indépendante qui a travaillé, et ces recommandations, elles doivent être suivies des faits. Deuxièmement, on accorde les 2,6 milliards d'euros qui sont demandés par les associations qui travaillent sur ce sujet pour pouvoir avoir le plan digne de la France dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Enfin, pardonnez-moi, on est capable de distribuer des dizaines de milliards d'euros aux grandes entreprises sans contrepartie. On est capable de donner des dizaines de milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches dans ce pays sans que ça ne pose de problème. Et on n'est pas capable de mettre moins de 3 milliards d'euros pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et pour protéger nos enfants. Voilà ce qu'on fait. On commence par ça. Et ça, ça nécessite des enquêteurs supplémentaires. Ça nécessite des formations. Vous savez que quand un enfant vient parler, il faut qu'en face, il y a un enquêteur qui soit formé.
Qui soit capable de distinguer, de lui poser des questions spécialement.
Je revoyais, regardez, j'avais un chiffre, je le retrouve plus, mais qui disait que aujourd'hui vous avez pas suffisamment d'enquêteurs qui sont formés pour entendre
spécialement
la parole
pour la question du recueillement des enfants.
Eh bah oui, et donc et tout le monde peut le comprendre parce qu'un enfant, le faire parler, c'est difficile. Et donc bien souvent il y a ce sentiment, il doit raconter des bêtises, il doit dire n'importe quoi. Donc voilà ce qu'il faut faire. Il faut mettre ça sur la pile des priorités des politiques publiques.
Est-ce qu'il faut un parquet spécialisé à l'image du parquet national financier, à l'image du parquet désormais contre le narcotrafic? C'est Dominique de Villepin qui propose cela.
Dans le programme qu'on avait défendu déjà en 2022 là pour l'élection présidentielle qui vient, vous savez, on est en train de travailler sur nos propositions,
déjà bien avancé.
Programme. Mais dans le programme de 2022, on mettait en place l'idée qu'il y ait en tout cas des équipes spécialisées qui prennent en charge et qui soient formées sur la question des violences sexistes et sexuelles et sur la question des violences sexuelles contre les enfants. Je trouve qu'effectivement ça irait dans la
bonne direction. Est-ce que vous irez ou est-ce que vous appelez à aller aux différents rassemblements ce soir, en particulier à Paris devant le ministère de la Justice, mais devant tous les tribunaux de France?
Les Insoumis, ils seront présents parce que Évidemment, on partage cette peine et cette émotion. Après, on sera vigilant, si vous voulez, sur les messages pour participer à des rassemblements avec lesquels on partage les messages.
Hier après-midi précisément, après-midi. Grand meeting en plein air à Saint-Denis. Vous avez annoncé avoir réussi à rassembler 26 000 personnes. Alors le chiffre, personne n'avait vraiment compté, mais en tout cas, il y avait beaucoup de monde. Vous avez compté les 26 000 un par un?
Pas un par un, mais vous savez, non, mais juste pour que les choses soient dites
rapidement. Pour qu'on comprenne comment vous arrivez à ça.
En fait, il y a un travail sur plan qui permet d'identifier une superficie. Et sur cette superficie, il y a une densité qui est estimée. Là, il y avait à peu près entre 7 000 et 8 000 mètres carrés. Si vous faites 3 à 4 personnes par mètre carré, vous arrivez à ce chiffre. Voilà, pour que les choses soient claires.
Grand meeting, grand rassemblement, en effet. Coup d'envoi, donc, de la campagne LFI, avec un certain nombre de points sur lesquels on vous a toujours entendu. La retraite à 60 ans, vous maintenez. Le SMIC à 1 700 euros. Un peu plus surprenant, peut-être, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, l'autonomie davantage pour la Corse. Comment vous en êtes venu à ça?
D'abord, en partant des demandes qui sont exprimées. En Corse, vous avez depuis plusieurs élections, les élections qui sont remportées par les autonomistes. Et à un moment, quand vous êtes démocrate, vous entendez la parole de la
population. Mais cet argument pour la Corse, il ne vaut pas pour la Nouvelle-Calédonie, puisque pour la Nouvelle-Calédonie, ils ont voté à 4 reprises.
Non, mais la Nouvelle-Calédonie, Jean-Luc Mélenchon a dit, nous accompagnerons la Nouvelle-Calédonie vers l'indépendance. C'est ce qui est fait en France depuis les années 80. Les accords de Nouméa, puis les accords de Matignon.
Non, mais ça veut dire que vous souhaitez l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie.
Un processus de décolonisation tel qu'il a été engagé, son aboutissement, c'est la fin des soumissions, et donc un processus d'indépendance.
Mais me semble-t-il, votre argument sur la Corse, qui est un argument électoral,
sur la Corse et sur la Nouvelle-Calédonie,
pourrait donner exactement l'inverse du côté de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a eu des votes et que les votes n'ont pas conclu à la volonté d'une...
C'est un peu plus compliqué que ça, si je peux me permettre.
En effet, c'est plus compliqué, on est d'accord.
Il y a eu deux référendums.
En tout cas, il n'y a pas eu de référendum.
À chaque fois, l'indépendance a progressé. Et le troisième référendum qui peut-être...
aurait pu peut-être
conduire a finalement été boycotté par les indépendantistes, puisqu'il a été organisé
par M.
Édouard Philippe contre la volonté des indépendantistes dans la période du Covid.
C'est pas une forme d'abandon?
Non, c'est une forme de reconnaissance d'un processus de décolonisation qui est engagé en Nouvelle-Calédonie et qui est reconnu, y compris par les Nations Unies, et que son aboutissement, c'est celui-là. Et quand vous avez cette attente, cette volonté qui s'exprime, je crois que vous devez la prendre en compte. La République, ça ne peut pas être une camisole de force. Vous ne pouvez pas imposer à des populations qui demandent une indépendance, ou dans d'autres territoires, une autonomie, de ne pas y avoir droit. Et donc, il vaut mieux le réfléchir en intelligence et en discussion plutôt que le faire malheureusement par des situations
Votre adversaire, c'est le RN. Nous ferons rempart au RN. Voilà ce qu'a redit Jean-Luc Mélenchon hier. Dans la foule, on a entendu ça. On est chez nous, crié par la foule face à vous. J'ai quand même dû le réécouter plusieurs fois parce que c'est un cri que l'on entend habituellement dans les meetings du Front National ou aujourd'hui du Rassemblement National. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vous voulez être le miroir du RN?
Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a eu une tentative depuis des dizaines d'années par l'extrême droite de capter un certain nombre de symboles, un certain nombre d'idées, un certain nombre de slogans, et que vous disiez, Jean-Luc Mélenchon a dit, on est le rempart contre le Rassemblement National. Sa candidature, c'est pas seulement une candidature d'opposition au Rassemblement National, c'est d'abord une candidature qui propose un programme alternatif. Mais oui, il y a aussi dans cette campagne des élections présidentielles la nécessité de combattre, de battre le Rassemblement National. Et une des manières de le faire, c'est de lui reprendre aussi les symboles qu'il a essayé de nous confisquer. Quand le Rassemblement National dit on est chez nous, c'est pour exclure une partie de la population et pour considérer que cette partie de la population n'est pas chez elle. Quand le peuple d'hiver qui était rassemblé hier à Saint-Denis dit on est chez nous, c'est pour dire non, on est tous chez nous. Et y compris ceux que les autres considèrent qu'ils ne sont pas chez eux. Voilà, la réponse c'est celle-là, c'est une réponse qui est politique, pas du tout un miroir.
Il y avait d'ailleurs beaucoup de drapeaux français.
Oui,
il y a de drapeaux tricolores, quelques drapeaux palestiniens, mais les drapeaux tricolores en masse, c'est nouveau, ils ont été distribués par LFI, ces drapeaux
Comme d'habitude, dans nos meetings, on a toujours, d'ailleurs, contrairement à ce que disent souvent l'extrême droite pour parler de la France insoumise, en disant, il n'y a pas de drapeau bleu-blanc aussi, il y a toujours des drapeaux bleu-blanc.
Non, il y en avait
beaucoup hier. Mais oui, il y en a, et évidemment, il y en a, parce que...
Mais ça veut dire, quand vous dites, on veut se réapproprier, je recevais la semaine dernière Raphaël Glucksmann, ici même, qui disait, là, à peu près, en réalité,
la même chose. Alors vous serez évidemment sûrement pas d'accord sur le sur la suite de ce qu'ils en fait, mais lui il dit il faut qu'on fasse en sorte de ne pas laisser ces symboles à l'extrême droite. Il parle de la Marseillaise, il parle du drapeau tricolore. Raphaël Glucksmann qui dit moi je plierai la France insoumise.
Alors il a raison, il faut faire une chose très simple, vous prenez le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon, vous le pliez avant de le mettre dans l'urne. Ça c'est il a raison, c'est ça qu'il faut faire.
C'est comme ça que vous l'entendez.
Bah oui, ouais. Il faut plier le bulletin avant de le mettre dans l'enveloppe, sinon ouais. Il rentre pas.
Vous êtes surpris
de
bah qui dit ça?
Non, il fait ce qu'il veut. Écoutez, il y a une élection présidentielle qui
mais vous
arrive.
Avez dit la primaire c'est fini. Hier Jean-Luc Mélenchon a dit ça y est, la primaire est finie, c'est nous. Comme s'il y avait déjà eu une primaire de la gauche.
Elle a jamais trop commencé, ça vous a pas échappé madame de Malherbe. Écoutez ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier, c'est dans cette grande bataille qui vient et qui est une bataille décisive, il y a une force politique, une candidature, une campagne qui est carrée, qui est engagée avec une équipe, avec un programme qui est en cours de discussion et avec une démonstration de force populaire qu'on a vu hier. Et donc ceux qui veulent une alternative au macronisme et ceux qui veulent battre l'extrême droite, ceux qui veulent réouvrir une nouvelle page de l'histoire des France, qui veulent partager les richesses, qui veulent faire la planification écologique, qui veulent passer à la 6e République, qui veulent redonner à la France une voix sur la scène internationale. Eh ben, ils ont une équipe, ils ont une candidature, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je leur dis, venez. Venez participer.
Fabien Roussel hier qui dit pour nous ce ne serait ni l'un ni l'autre en parlant de Jean-Luc Mélenchon ou de Raphaël Glucksmann.
Bah Fabien Roussel dit ce qu'il veut, mais je crois que si à la fin c'est pour conduire à des candidatures qui n'ont finalement pour seul résultat d'empêcher la candidature de Jean-Luc Mélenchon d'être qualifié au second tour et de l'emporter, je crois pas qu'on aura beaucoup fait avancer la gauche. Et c'est ce qui s'est passé en 2022. Et moi vous savez j'ai croisé beaucoup de militants communistes qui s'en sont mordus les doigts en 2022 d'avoir maintenu jusqu'au bout une candidature qui a fait autour de 2% des voix, et ces 2% des voix, c'est ceux qui ont manqué à Jean-Luc Mélenchon pour se qualifier au second tour. Donc chacun prendra ses décisions, mais ce que je dis, c'est que tout le monde a une responsabilité devant l'histoire. Personne ne pourra dire je n'étais pas au courant. Tout le monde a une responsabilité devant l'histoire. Et moi, je veux juste dire ça. Je veux dire, la proposition qu'on fait, c'est une proposition qui est ouverte. Toutes celles et ceux qui veulent participer de cette dynamique sont les bienvenus. Tout le monde sera respecté. Il y a une discussion sur le programme, il y a la volonté de faire un accord présidentiel législatif. Ceux qui le refusent, après, ils assumeront leur propre responsabilité.
Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, merci d'avoir répondu
merci
à mes
vous.
Questions. 8h48 sur RMC BFM TV.
Merci Apolline, et dans un instant sur RMC, les dernières infos sur la Coupe du Monde. Camp de base, dernier match des Bleus en France ce soir. Et les pronos, tiens, parier sur les résultats entre amis ou au boulot. Vous êtes de plus en plus à vous prendre au jeu. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
La Coupe du Monde de foot débute cette semaine, mais ça a déjà commencé sur RMC.
RMC, Coupe du Monde de football, FIFA 2026.
Il est 8h52. Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Mathieu. Bonjour à tous.
Pardon monsieur, c'est dans 3 jours. J-3, la Coupe du Monde. Et dans un instant, vous allez nous donner les dernières infos sur les équipes qui sont en train de prendre possession de leur camp de base. Mais avant cela, on va vous retrouver vous, Célestin Bougère. Bonjour Célestin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors on le sait, les paris sportifs vont battre de nouveaux records. Mais ce matin sur RMC, on s'intéresse au concours de pronos gratuits. En famille, entre collègues, entre amis, le phénomène explose. Les applications sont de plus en plus nombreuses. D'ailleurs Célestin, dans de nombreuses entreprises, on s'y met.
Et oui, par exemple, je suis rendu à Viry-Châtillon dans l'Essonne, au siège de la branche énergie et services de l'entreprise de BTP Fayat. 1000 salariés sont attendus sur l'application Corporico qui permet d'enregistrer son pronostic pour tous les matchs de la Coupe du Monde. Pas d'argent en jeu, le principe, plus le pari est risqué, plus vous gagnez de points si vous avez raison à la fin du match. Je rejoins deux voisins de bureau, Paul Aubin, responsable achat, et Pauline Kramer qui s'occupe de la base fournisseur de l'entreprise. Des maillots sont accrochés au mur, il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge un peu partout, on sent que la compétition se rapproche.
On l'a déjà fait il y a 2 ans pour l'Euro. D'ailleurs, j'avais gagné. C'est marrant, c'est bonne ambiance, c'est fun, c'est cool. Franchement, je suis à fond, donc j'ai trop hâte que ça commence. T'as commencé, toi ?
Bien sûr.
Déjà, on peut voir votre pari final pour le vainqueur.
La France, évidemment, on est chauvin. Sur les têtes de série aussi pour les différents groupes.
T'as mis Mexique, ouais. Non, moi, je dirais plus l'Afrique du Sud.
Ouais,
du
bien sûr.
Bah, on sait jamais. Hein,
non, mais
bah,
c'est la belle
oui.
surprise.
Bah, on verra bien. Hein.
Quand moi je joue safe, elle est plutôt audacieuse. Voilà, elle prend les 130 points direct sur
franchement, j'avais même pas vu les points. C'est les couleurs qui me parlent.
Voilà, donc là on joue vraiment sur les fondamentaux, les drapeaux. C'est ça qui oriente le pari.
Vous pensez que vous avez une chance de gagner quand même ou ça va être compliqué?
On sait pas. Hein. Il a de la chance lui. Hein.
C'est pas que de la chance. Je vais pas vous mentir, monsieur, on joue pour gagner. Hein.
C'est pas que de la chance. Et qu'est-ce qu'on gagne, Célestin ?
Eh ben, on gagne un air fryer, un barbecue électrique ou encore des écouteurs.
Bah oui.
Et oui, pourquoi pas. L'application Corporico va être utilisée par près de 400 entreprises pour la Coupe du Monde. Un record selon David Belaïch, le cofondateur de la société qui édite ce site.
On a autant d'experts en foot que de novices, autant d'hommes que de femmes, autant de jeunes que de personnes plus âgées. On a complètement modernisé soit le papier, soit même le tableau Excel ou le tableau Velleda. On garantit qu'il n'y ait pas de triche déjà. Ça évite les conflits en interne.
Alstom, Stellantis, Saint-Maclou, les comités d'entreprise de ces sociétés ont déjà invité leurs salariés à faire leurs pronostics.
Alors attention, il n'y a pas que dans les entreprises qu'on parie.
Et non, tout le monde se lance avec des applications comme Scorecast ou Mon Petit Prono. Une salle de sport fait gagner un an d'abonnement aux meilleurs parieurs. Un réparateur de téléphone, des cartes cadeaux, des restaurants, des bars se prêtent au jeu. Et même un EHPAD à Saint-Martin-des-Champs dans le Finistère. Nathalie Vignard, l'animatrice, récolte les pronostics des résidents à chaque compétition internationale depuis 2012.
C'est un moment très convivial. Cet engouement, je peux même pas l'exprimer. C'est tellement beau à voir. Ils sont tellement heureux de faire ça. Bon, il y a aucun mystère. Tout le monde a mis la France qui gagne. Donc, c'est des chauvins.
Et à la fin, le vainqueur a le droit à une coupe avec son nom inscrit dessus. Le trophée est remis en jeu tous les 2 ans à chaque compétition.
Alors, certains se lancent même en famille et entre amis.
Oui, et là, c'est plus la même histoire. C'est son honneur qui est en jeu. Je suis allé voir Vincent, un avocat, et son frère Louis à l'étranger en ce moment. Ils se sont appelés pour débattre et ils sont pas du tout d'accord, ça c'est clair. Rendez-vous jeudi pour cette famille, puisque le père a pronostiqué un beau parcours du Mexique, qui joue le match d'ouverture contre l'Afrique du Sud. C'est un peu risqué, le Mexique.
Plus que 3 jours, et puis il faudra parier match par match. Vous avez fait vos pronos, Célestin, déjà ?
Oui, j'ai fait mon chrono.
Vous pariez sur qui à la fin ?
Moi, j'ai parié sur le Portugal.
On s'arrête là alors. Il est 8h55.
RMC, le mondial de Virginie.
Virginie Fulpin, vous êtes toujours avec nous. La Coupe du Monde de foot commence dans 3 jours aux États-Unis. Vous sentez l'excitation un petit peu là ? Aux États-Unis, au Mexique, au Canada. Et là, ça y est, les premières équipes sont arrivées ou en partance pour le grand voyage.
Voyage dans le temps aussi, hein, vous voyez, avec des Irlandais. Alors pour l'équipe de France, il y a quand même encore un match de préparation ce soir contre l'Irlande du Nord. Après, on boucle les valises, on part pour la côte Est des États-Unis. C'est le dernier voyage de Didier Deschamps en tant que sélectionneur. Hier, il a dit au revoir à Clairefontaine et le personnel du château lui a fait une aide d'honneur. Il faut dire qu'il y a passé 25 ans dans ce lieu, hein, 11 comme joueur, 14 comme sélectionneur, avec une Coupe du Monde dans chaque rôle quand même.
Une grosse inquiétude au Danemark, Virginie.
Ouais, une grosse inquiétude parce que l'international danois Christian Eriksen s'est effondré sur la pelouse en plein match de préparation hier entre le Danemark et l'Ukraine. Le joueur de 34 ans avait déjà été victime d'un malaise cardiaque très impressionnant lors de l'Euro 2021. Depuis, il porte un défibrillateur implantable. La fédération danoise se veut rassurante. Christian Eriksen s'est vite relevé. Il était conscient au moment où il est monté dans l'ambulance, mais évidemment là, il n'est plus du tout question de Coupe du Monde pour lui.
L'équipe d'Iran est arrivée au Mexique où se trouve son camp de base et sa Coupe du Monde promet d'être compliquée.
Comment pourrait-il en être autrement, hein, alors que la guerre au Moyen-Orient se poursuit ? Aucun problème pour l'arrivée de la délégation iranienne au Mexique. Les États-Unis ont fourni des visas à l'ensemble des joueurs, mais ils en refusent une quinzaine pour des membres du staff. L'Iran parle de discrimination. Les Américains devraient bien autoriser les Iraniens à entrer sur leur territoire à la veille de chaque match, parce qu'au début, on avait dit qu'il fallait peut-être tout faire en 24 heures.
Hein. Ah oui.
Partir le matin, aller jouer et repartir aussitôt jusqu'au Mexique, ce qui n'était pas très entendable par la FIFA.
Alors heureusement, il y a aussi des infos un peu plus légère autour de cette Coupe du Monde, comme les Norvégiens qui arrivent en bateau.
Bon alors, on va pas mentir, hein, en vrai ils prennent l'avion comme les autres, mais sur leur photo officielle, de cette équipe norvégienne, les joueurs posent tous en tenue de viking, Erling Haaland au premier plan avec un drakkar traditionnel en arrière-plan.
Mais moi ça m'a fait peur, ça marche.
Ça marche parce que la France est dans le groupe de la Norvège. 26 juin pour la date, ce sera près de Boston. Bon bah j'espère qu'il y aura la même ambiance qu'au Mexique, parce que samedi il y a des milliers de Mexicains qui se sont réunis pour faire onduler la plus grande Ola, jamais vu. Plus de 2 km de long, c'est bon. Le record du monde est battu.
Je sais pas si j'ai plus peur des Norvégiens en drakkar ou des Mexicains et de leur Ola. Merci Virginie, le mondial de Virginie. C'est tous les jours à 8h50, la Coupe du Monde à suivre en intégralité sur RMC Radio Officielle. Vous ne manquerez rien de l'événement grâce à nos reporters sur le terrain et au studio RMC délocalisé installé à New York aux abords du stade où aura lieu la finale le 19 juillet prochain. Dans un instant, les GG Quel est le programme, mon cher Alain Marchal? Bonjour Alain.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Barbara Lefebvre, Bruno Poncet, Charles Consigny. Déjà, c'est le trio de grande gueule. Nous reviendrons sur la convocation des procureurs par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Il demande à ce qu'on reprenne toutes les plaintes à zéro. 70 000, est-ce que vous y croyez? On recevra Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie. Est-ce que c'est l'homme qui a ruiné la France? Restez avec les GG, avec les grandes gueules.